Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite tête de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégés, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour! Bonne année!
Bonne année!
Bonne année, même si c'est pas encore.
Bah, ouh,
alors, au moment où ça sort, si.
Mais tu trahis la magie de l'enregistrement.
Clairement. Mais la magie, c'est qu'on enregistre le 31, voyons.
Ben oui.
Bon, là, c'est plus que trahir la magie, c'est vraiment donner tous les détails.
Oui, bah oui, bon, bah.
C'est quoi votre adresse déjà?
Bonne année.
Pardon.
Bonne année au moment où vous enregistrez, où vous écoutez cet épisode. Donc, ça marche quand même. On espère du fond du cœur que les fêtes de fin d'année ont pu se passer comme vous le souhaitiez, sans Covid, bien sûr. Alors, on se souhaite quoi pour la nouvelle année?
De réussir à regarder les travaux du mois avant, 10 minutes avant.
C'est
les travaux du mois.
Réussir à les nommer.
Les sujets du mois sont des travaux. Bah, c'est tout le cap.
T'as l'impression que c'est un truc, c'est un labeur, c'est forcé, tu vois, c'est le travail forcé.
Non. Mais je l'aurais peut-être pas regardé là, quoi. Bon, bref.
C'est vrai. Mathilde, qu'est-ce que tu souhaites pour la nouvelle année?
Moins d'annulations de séries de Netflix.
Ah oui, c'est vrai.
Plus de séries cool.
Moi, je demande un peu de qualité.
C'est pareil.
De la qualité, s'il vous plaît.
Voilà. C'est très bien. Pour le dernier mois de l'année, on va parler de Hawkeye, la dernière série des studios Marvel, de la saison 2 de The Witcher, sortie ce mois-ci sur Netflix, d'Arcane, la super série animée de Netflix, on a un mois de retard, on sait, pardon, et de Don't Look Up, le film au casting 5 étoiles sorti ce mois-ci sur Netflix. On est prêt pour une nouvelle année et un nouvel épisode?
Oui!
Alors, on va commencer par le bilan de l'année 2021. Mathilde, on va commencer par ton top 3 de l'année 2021.
Alors moi, en top 3, j'ai mis des trucs que j'ai regardés, mais c'est pas spécialement sorti en 2021. Typiquement, Buffy contre les vampires, c'est pas sorti en 2021.
Non.
Mais par contre, on a fait un énorme marathon. Ça a peut-être commencé en 2020. On va dire que c'est la plus grosse partie s'est déroulée en 2021. Et c'était trop bien de visionner tout Buffy. Moi, j'avais pas vu l'intégralité et ça m'a marqué durant toute l'année.
C'est vrai.
En numéro 2, j'ai mis Motherland for Salem. Je vous en ai parlé le mois dernier. C'était la série sur Prime Video qui aura une saison 3.
C'est le chien qui s'énerve.
Il y aura une saison 3 qui arrivera en 2022 normalement. Et j'ai vraiment adoré cette série. Et en numéro 3, The Witcher, la saison 2. On n'en parle pas trop parce qu'on va en parler après, mais voilà, c'était trop bien. Sinon, j'ai bien aimé aussi, parce qu'il y a d'autres trucs. Il y avait Love Anarchy.
C'est plus du tout un top 3, là.
Sur Netflix. J'ai trop aimé découvrir Miraculous Ladybird, Ted Lasso et le docu de Errol Sam. Voilà.
Et quels sont tes recos ou ce que tu as envie de voir l'année prochaine?
Ah oui, il y a plein de trucs. Mais j'en ai mis que 4. Ça, c'est pas beaucoup. J'ai mis Airstopper, la série qui va arriver sur Netflix, qui est issue des comics de Alice Osman.
Et oui, je connais.
J'ai découvert qu'il y allait avoir une série sur OCS sur Circe, qui est une déesse. Une déesse sorcière, un peu les deux. C'est une déesse et en même temps, elle fait aussi de la sorcellerie. Et c'est trop bien parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre de Madeline Miller, il me semble, qui s'appelle Circé aussi et qui parlait de ce personnage mythologique. L'histoire a été réécrite autour de ce personnage-là et j'avais vraiment adoré. C'est super féministe et c'est trop bien. Et du coup, j'ai hâte de voir cette série.
L'article est sur le blog.
Oui, l'article est sur les blogs. Sinon, il y a aussi Willow, oui, Willow qui sera sur Disney+. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais moi, les films de Willow, c'était toute mon enfance.
J'ai jamais entendu
parler. Je connais et je crois que j'ai regardé trop jeune.
C'est le Game of Thrones pour les enfants.
Ouais,
non, c'est le Seigneur des Anneaux pour les enfants, on va dire. Ça existait avant.
Mais sauf que c'est crado, pas pour les enfants.
Mais si, c'est pour les enfants.
Non, mais moi, quand je dis que j'ai regardé trop tôt, c'est pour ça, c'est que ça m'a un peu trauma.
Oh, mais toi, t'es trauma partout, de toute façon. Mais
c'est déjà.
Mais du coup, il va y avoir une série qui va sortir sur Disney+, et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler et si ça va être cool. Et bien évidemment, on finit par House of Dragons, qui va sortir sur OCS. C'est le grand retour de l'univers de Game of Thrones. Et ça va être trop cool, je pense.
Et t'es confiante?
Bah oui, pourquoi? Enfin, ils ont bien réussi quand même.
Dès qu'il n'y avait plus de romans, c'était la cata. Alors.
Bah là, en fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est adapté d'un roman qui s'appelle Blood, je sais plus quoi. Et du coup, il y a. Non, je suis pas sûre du tout.
Bloodsport.
Mais je crois qu'il y a qu'un roman.
Non, Bloodsport, c'est un film avec Jean-Claude Van Damme, donc il y a vraiment peu de chance.
Il me semble qu'en gros, c'est une adaptation où il n'y aurait qu'un roman, donc il ne pourrait pas trop dériver, quoi. Mais c'est peut-être que moi qui...
Bah, s'ils suivent qu'un roman, mais par contre, s'ils dérivent après...
Ah bah, je sais pas, on verra.
Ou avant.
Bon, en tout cas, moi, l'univers de Game of Thrones est quand même trop cool et c'est toujours bien de retrouver cet univers avec d'autres protagonistes.
Il y a Matt Smith.
Dedans ?
Oui.
Oh bah voilà, encore une raison de regarder en plus. Franchement, Matt Smith, et ça parle de la famille Targaryen.
La famille de Daenerys, je sais pas
c'est
leur
ça.
Nom de
c'est
famille.
Eux. C'est eux, c'est eux.
Ah oui, donc ce serait plutôt en mode préquel.
Oui, c'est ah ça, oui, c'est un préquel, ouais.
Ok.
Damien,
oui.
Raconte-nous ton top 3.
Alors, sans surprise, c'est la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine.
Puis la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine.
Alors non, parce que du coup, moi, j'ai essayé de mettre que des trucs qui étaient sortis, en tout cas sur les plateformes cette année. Du coup, la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine, parce que c'était parfait, que tout le monde devrait regarder. Mais pas juste la 8, c'est tout. La saison 2 de The Witcher, mais on va en parler plus tard, même si c'était au moins aussi bien que la première. Et Demon Slayer, qui était une belle découverte, qui change un peu des shonen classiques, et j'avais bien aimé les dessins. Et mes recos pour 2022 sont... j'ai l'impression de décerner des prix. Alors, Obi-Wan Kenobi, la série.
La réponse D.
Sur Disney+.
Non, j'en ai pas mis. Oui, j'ai mis, pardon, effectivement. Alors,
c'est pas grave, je rajoute.
Ok, sur Disney+. Le Seigneur des Anneaux.
Sur Prime Video.
Ok. Et Dune, The Sisterhood.
Je sais pas du tout.
C'est un rapport avec Dune ?
Ça parle du Bene Gesserit, je pense. J'ai vu très peu d'infos pour l'instant.
C'est sur quoi ?
Justement, j'ai vu très peu d'infos.
T'es sûr que c'est en 2022 ?
Oui, par contre, ce que j'ai vu, c'est en 2022. C'est HBO.
Ah, déjà.
Et ça, c'est bien sur Dune.
C'est un film ou. Enfin, c'est, je veux dire, live action ou série animée ?
Live action.
Ça mérite de regarder ce que c'est.
De l'attention.
Il est censé y avoir une date de sortie.
Peut-être que ça arrivera sur Salto, alors si c'est sur HBO.
Ils disent.
Oui.
Ou OCS.
Fin 2022, normalement, dans l'idéal. Peut-être depuis 2023, et dans ce cas-là, je m'excuserai à la fin de l'année. Voilà. Et toi, Emilien ?
Eh ben, moi, mon top 3, ça va commencer par... c'est surtout des films, en fait. Y a d'abord les Mitchell contre les machines qu'on avait regardé en début d'année.
C'était trop bien,
l'animation était dingo, c'était bien écrit. Et puis rien que pour chien, cochon, pain de mie.
C'est pour ça qu'on a eu un chien, d'ailleurs.
Oui, et pas un pain de mie, ni un cochon. Non, rien que pour ça, ça mérite d'être dans ce top parce que ça a un peu inventé un mème chez nous. Chien, cochon, pain de mie. Il y avait Ted Lasso aussi qui était une série trop bien. Aucune série ne dégage plus de gentillesse et de bienveillance que Ted Lasso. Donc c'est peut-être la série que j'ai préféré regarder cette année. Et je vais pas vous embêter trop longtemps, mais j'ai découvert Rocky cette année et c'est une des meilleures séries de films que j'ai vues de ma vie. Donc j'étais obligé de mettre ça là. Mais aussi, il y a des récompenses honorables, comme on dit. Il y avait WandaVision et Loki que j'ai bien aimé. Il y avait le docu Orelsan, montre jamais ça à personne. Premier contact qu'on avait regardé aussi, qui était bien. Don't Look Up récemment.
What?
Et qui a tué Sarah? Non, évidemment, c'est une blague. Là. Jamais. Ça, c'est si on décerne la pire série de l'année.
Et les recos.
Bon, en fait, ça ressemble un peu à Damien.
Je suis en train de voir ça.
T'avais pas triché.
Ou non, j'avais pas du tout regardé. Aucune originalité. Hein.
J'ai pas pris le temps de regarder les bandes annonces et tout ça, donc.
Pourtant, j'avais fait une liste en dessous séries à sortir en 2022, une énorme
c'est
liste.
C'est vrai, c'est vrai.
Franchement, il y a du lourd.
Il y a des trucs qui ont l'air trop bien, ouais. Ah ouais. Mais vraiment, dans ce
mais
que
après,
j'attends.
Mais faut faire un choix normalement.
Attends, il y a Vikings Valhalla.
Plus plein d'autres.
Mais le but, c'est pas de juger mes.
Il y a The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy. Il y a un autre truc qui a l'air trop bien, c'est Sandman.
Non.
Ça vous dit, je donne mes recommandations, puisque j'ai envie de voir. Et après, vous dites les trucs qu'on n'a pas cités.
Ouais, vas-y, on fait ça.
Donc, il y a Obi-Wan Kenobi sur Disney+, ça doit être trop bien parce qu'il y a le retour des Watt McGregor après avoir ce que ça va raconter. Il y a le Seigneur des Anneaux, par curiosité, on peut voir comment Prime Video va s'en sortir, parce que vraiment, l'ambition est plus qu'annoncée, il va falloir assumer après. Et il y a Couteau tiré 2, suite du film.
Il y a une suite.
C'était un dépito que j'avais fait un coup de gueule. J'avais pas envie que ça sorte sur Netflix, je voulais que ça sorte au cinéma. Mais bon, ce sera
quand même
d'aller
le voir.
Du coup, c'était vachement bien le
premier. Du coup, il y aura toujours Tom Holland.
Il y a jamais eu Tom Holland dans Un couteau tiré.
Ah non, Un couteau tiré. Oh là là, je mélange avec l'autre.
C'est pas Spider-Man.
Non. Je mélange avec la voix du couteau.
La voix du couteau.
La voix du couteau. La voix...
Ah oui.
C'est quoi la voix du couteau?
C'est le truc du mec qui enlevait des voix dans sa tête.
Mais oui, non, c'était pas ça.
C'était pas ouf.
Non, mais maintenant, je vois Un couteau tiré, c'est avec Captain America.
Oui, c'est pas le héros.
Bah
le héros, c'est Daniel Craig, c'est James Bond.
Oui, c'est ça.
Voilou, est-ce que vous voulez nous parler d'un petit peu des séries qui vont sortir l'année prochaine?
Elle est très longue, cette liste.
Ah, il y en a.
Hyper longue.
Il y en a plein. Il y a un truc, Guillermo del Toro Cabinet of Curiosity qui va sortir sur Netflix. C'est une adaptation d'un grimoire qui est sorti. Et ça racontera 8 contes sinistres. Ça a l'air vraiment pas mal. Sinon, j'ai retenu quoi?
Il y a The Last of Us, que je vois là sur OCS.
Adaptation, ouais.
Ça peut être
vidéo.
Pas mal.
Il y a The First Lady. Ça, on en avait pas mal parlé quand avait trouvé ça. Je sais plus sur quoi ça va sortir. Je sais même pas si ça va être dispo en France. Mais en tout cas, ça va parler des premières dames des États-Unis. Donc, un épisode par First Lady.
Dame, mais attends, il y en a vraiment beaucoup. Ils se rendent compte du nombre de...
Bah, ils ont choisi.
Non, mais ça va être celles qui ont des choses à raconter ou les plus modernes, peut-être.
Ouais. Mmh. Ouais, ils en ont choisi. Mais bon,
en tout cas, il y aura Michelle Obama.
Oui. Et je sais pas, après, j'ai pas regardé en détail.
Je sais plus. J'ai retenu que Michelle Obama. Il y aura peut-être Jackie Kennedy aussi, je sais pas trop.
Sinon, en France, parce que parlons un peu des séries françaises, il y aura Louis 28, c'était ça que j'avais marqué.
Le nom a l'air trop drôle.
Louis 28 sur France TV/, c'est une uchronie où la monarchie française n'a pas été arrêtée. Et du coup, c'est en mode comédie. Donc ça peut être sympa. Et il y avait aussi la série Drôle sur Netflix, c'est une série française faite par la showrunneuse de 10%.
Oui, c'est vrai aussi.
Donc à voir ce que ça donne. On en parlera après, mais il y a le préquel de The Witcher, Vikings Valhalla également, She-Hulk sur Disney+.
Voilà
ce que ça donne.
Je pense que ça fait partie des séries Disney+ que j'attends le plus en fait. Enfin, Marvel, je veux dire Marvel Studios.
Sandman, je sais pas si vous aviez vu sur Netflix. C'est l'adaptation des comics.
Ouais. J'ai pas envie de regarder.
Ah moi ça me dit bien. Hein. J'ai regardé la bande annonce. Je crois qu'elle est sortie.
Neil Gaiman, normalement.
Et ça a l'air vraiment bien. La bande-annonce est sortie déjà. Et ça a l'air cool. Il y a Revenge of the Nerds. Je crois que c'est une série en streaming qui parle des...
De revanche de geeks.
Ouais, c'est ça, en fait, des geeks, mais pas comme on les a vus dans The Big Bang Theory, tu vois, des vrais geeks, quoi. Pas des...
Ouais.
Pas des faux geeks.
D'accord.
Des nerds, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce qu'on peut dire que moi, j'attends aussi Planqueur? Bon, ça sort demain. C'est sorti au moment où l'épisode sort, mais c'est en 2022.
Oui, mais on en parlera
à la fin
de l'épisode.
Évidemment. Ah, mais oui. Oh là là, mais
plus
je...
dans les recos.
Je suis brouillon.
C'est comme moi, je parle pas de As We See It parce que je vais en parler après, par exemple. Ah si, il y a un truc, une adaptation des romans d'Anne Rice, genre Entretien avec un vampire par exemple. Je sais pas si vous connaissez.
Bah moi je connais le film.
Moi j'ai pas lu Anne Rice, mais du coup il y a deux de ses bouquins qui vont être adaptés en série et ça pourrait être sympa. Et donc Entretien avec un vampire va être adapté.
On n'avait pas parlé de The Witcher Blood Origin.
Non, parce qu'on va en parler dans The Witcher.
Ah bon.
OK.
Moi je l'ai mis dans The Witcher. Donc moi je crois que c'est une grosse liste déjà, il y aura évidemment plein d'autres choses mais voilà. C'est pas mal.
C'est bien déjà. Puis évidemment, on reparlera de tout ça et on découvrira plein de choses dans l'année.
Des surprises.
Des surprises. Oui. On passe au Hypicto. Allez. Mathilde, tu vas râler pour terminer l'année.
Pas de Hypicto, un déhypicto si on peut dire. Lors d'une convention à Paris qui a eu lieu ce mois-ci, l'équipe de tournage de Julie and the Phantom était présente, et avec ses nombreux fans, bien évidemment. Et malheureusement, ils ont annoncé que la série serait annulée. Donc pas de suite, pas de saison 2. Et clairement, c'est vraiment une grosse déception parce que cette série avait vraiment créé une grosse communauté de fans.
On en a déjà parlé ici, moi ça, je connais pas.
Non, parce que on n'avait pas encore fait de récapito quand c'est sorti. C'est vraiment une série en mode Disney. Ça ressemble vraiment à une série Disney. Ça parle de Julie qui a perdu sa mère et du coup qui ne joue plus de musique jusqu'au jour où elle retrouve je crois que c'est un album qu'elle écoute ou quelque chose comme ça. Et en fait, dès qu'elle se met à chanter, et ben il y a un groupe de musique rock qui apparaît en mode fantôme. En gros, c'est Julie and the Phantom et ça, elle crée un groupe. En gros, elle chante et dès qu'elle se met à chanter et tout ça, ben ses musiciens arrivent. Et c'est des fantômes.
Si vous voulez, et Damien aussi, connaître l'avis de Mathilde là-dessus, c'était dans le récapito écrit de septembre de 2020.
Ouais, voilà, ça date de 2020, donc ça fait un moment qu'on attendait d'en savoir plus, et il y avait vraiment une grosse communauté de fans, et en fait, non, rien du tout. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient vraiment, en plus, la bande son était vraiment incroyable. Enfin, pendant presque 6 mois au moins, quand j'allais bosser, j'écoutais ça le matin pour me motiver. Elle est vraiment top, et c'est une vraie déception. Parce que, c'est une vraie déception. Vraiment très, très déçue. Alors, il y a plein de The Witcher, mais il n'y a pas beaucoup de Julie and the Phantom. C'est des petites séries comme ça qui restent dans nos cœurs.
Il faut bien financer les courts-métrages d'élite. Hein.
Malheureusement,
ouais. Ouais, des balles perdues.
T'en as pas, toi, Amy?
Non, je n'ai pas trouvé.
Ok. Pardon. Dame.
Moi, j'ai mis qu'il y avait Mother / Android. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un slash au milieu du nom. Qui avait l'air sympa. Ça a l'air d'être une espèce de série dystopique rigolote. Rigolote,
qui
c'est
sort ce mois-ci?
Enfin, en janvier, quoi.
Ouais, mais sur quelle plateforme?
Oh, c'est une bien bonne question. Laisse-moi vérifier.
Non, mais c'est pas grave. Hein.
Je vois que c'est sur Hulu, donc c'est possible que ça soit sur Disney+.
Ouais, sur Star, quoi. Ouais, de la partie Star.
Ouais. Oui.
Et c'est tout du coup, Amy, pas de hypito, pas de dépito, quelle tristesse.
Neutralité.
Neutralité. Mmh. Il veut commencer l'année en...
Sur de bons rails. On va passer aux séries maintenant. On va commencer par Hawkeye. Qu'on a vu tous les trois, on a regardé la saison 1 bien sûr, qui compte 6 épisodes de 40 à 60 minutes. Ça avait commencé le 24 novembre et s'est terminé depuis le 22 décembre. C'était sur Disney+. Qui raconte le résumé?
Moi je veux bien.
Allez.
Alors, on retrouve l'ex-Avenger Clint Barton, alias Hawkeye à New York après l'éclipse. Sa seule mission...
Il n'y a que des mots-clés que si tu n'as vu aucun film Marvel, tu comprends rien.
C'est vrai. Pardon, je reprends. Sa seule mission, rejoindre sa famille pour Noël jusqu'à ce qu'une menace liée à son passé l'oblige à faire équipe avec Kate Bishop, une talentueuse archère de 22 ans, afin d'élucider une conspiration criminelle.
Oh loulou.
Mystère.
Qui veut commencer à donner son avis?
Moi, c'est pas long, alors je peux peut-être faire le début, comme ça après allez. Vous allez en chérir dessus. Alors, j'étais contente de revoir Clint. Parce que je trouve que c'est un personnage sous-côté de Marvel. Enfin, on le voit pas beaucoup, on le voit que quand il est avec Black Widow. Bah, c'est pas pour ça qu'il doit être sous-coté. Le mec, ça veut dire qu'il s'entraîne deux fois plus que les autres pour ne pas mourir en situation de crise parce que ouais, lui, il a pas de super pouvoir.
Pas de pouvoir, pas de pouvoir. Enfin, il.
pas de pouvoir.
Non, mais il tire à l'arc les yeux fermés.
Mais il est très fort. Mais c'est pas un super pouvoir, c'est un. Voilà, il est très fort. Oui. Le personnage de Kate Bishop est vraiment sympa. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé son chien aussi, Monsieur Pizza. Je le trouve cool.
J'ai oublié le nom du chien.
C'est Monsieur Pizza. Ou alors Prince de la Pizza, et c'est pas trop. Elle est amusante. Après, au niveau de la série, l'histoire m'a pas vraiment intéressée, malheureusement. J'ai trouvé ça un peu, voilà, c'était là, mais c'était pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir Kate et comment elle était avec Clint, les blagues qui se faisaient, tout ça, c'était drôle. Et j'ai bien aimé aussi l'esprit de Noël, voir New York sous la neige, la patinoire, tout ça, c'était beau. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était le duo entre Kate et Yelena. Qui fonctionne vraiment bien. Moi, c'est les moments qui m'ont plus fait marrer, c'est quand elles sont toutes les deux à se chamailler, à s'envoyer des compliments et tout.
Mais c'était un peu court pour le.
Ouais, c'était un peu court, mais je pense que c'est une intro, donc faudrait voir. Voilà, c'est mon avis.
Bah, c'était une manière subtile de montrer que, regardez, avant Hawkeye et Black Widow,
ils étaient potes.
Bah maintenant, Hawkeye et la nouvelle Black Widow sont potes.
Oui, voilà, c'est ça. Vrai.
Damien, est-ce que tu veux donner ton avis? Parce que moi, j'ai vraiment raconté plein de trucs.
Oh bah, volontiers. Comme ça, on fait un final en apothéose. Alors, du coup, moi, j'avais un peu peur en apprenant que c'était une série de Noël. Et finalement, il y a un peu de Noël, mais pas trop. Donc, juste comme il faut. Et ça va être à peu près comme Mathilde, en fait. Je m'en suis rendu compte en t'écoutant. J'aime bien le côté nonchalant de Clint et Kate. Je trouve que le contrepoint avec les films de Marvel qui sont... du coup, moi, je les trouve quand même très premier degré. Je trouve que les blagues dans les films Marvel, elles marchent pas très bien. Donc, je trouve qu'ils sont...
C'est vrai.
Assez premier degré. Et du coup, j'aime bien qu'il y ait un truc un peu plus...
Mais Clint a toujours été un peu comme ça.
Ouais, mais comme il, est pas assez montré dans les films...
Ouais, ça se voit un peu moins. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé le chien.
Il est trop bien.
En plus, oui. Il le sauve, ce qui est quand même vraiment bien. C'est un beau message pour Noël.
Le prince de la pizza.
Oui. Et puis, et la fin de saison, du coup, enfin, je sais pas trop ce que ça va donner pour la suite de Hawkeye, mais si ça continue, ça veut dire que ça, c'est une femme, ce qui est bien. Je pense qu'à la fin, elle va prendre le costume, en fait.
C'est le but.
Je pense que...
Vous pensez pas qu'il va rester un peu avec elle, genre.
Ah si, je pense qu'il va y avoir une période de tuilage.
Ouais, c'est ça. Ouais, je pense.
On fera un contrat.
Je sais pas.
Il faut qu'il aille la présenter aux autres Avengers.
C'est vrai.
En fait, je sais pas du tout l'avenir du MCU, mais c'est évident, en fait, on voit que petit à petit, il y a un renouvellement de tous les Avengers.
Ils sont tous jeunes.
Donc, à voir, est-ce que. Il y aura une saison 2 d'Hawkeye avec où on verra vraiment Clint prendre sa retraite et ne plus jamais apparaître dans le MCU avant un nouveau film Avengers qui n'est toujours pas annoncé.
Ou un film Hawkeye.
Je pense pas. Ça aurait déjà été fait.
Pas assez. Mais tu vois, Black Widow, oui, elle a eu son film, mais Hawkeye.
Surtout parce que Scarlett Johansson a déjà prouvé qu'elle tenait des films, qu'elle faisait des bons box-office en étant seule à l'affiche, quoi. Ouais, Jeremy Renner, c'est moins sûr encore. Là, c'est vraiment...
J'ai pas si bon que ça.
Non, je parle pas de ça, je dis en termes de box-office, quoi. C'est vraiment le producteur qui parle. Ce que je ne suis pas. moi, j'ai trouvé l'idée chouette. Ça, une série comique d'action familiale new-yorkaise en plein Noël. Ça faisait beaucoup d'adjectifs, mais je trouvais que c'était rigolo et c'était un vrai parti pris qui changeait. Un peu comme dans l'esprit de Piège de cristal ou presque Maman, j'ai raté l'avion. En fait, c'est le gang des survettes qui m'a fait penser vraiment au casseur flotteur. Mais vraiment, je trouvais que c'était des méchants un peu dans le truc des casseurs flotteurs, quoi. Des antagonistes un peu nullos. Comprends pas au sérieux parce qu'ils s'appellent déjà le gang des survettes.
Quelle idée.
Ah, c'est comme ça en français?
Ouais.
Ah oui, on l'a regardé en VF, oui.
Ils disent comment en anglais?
The track... track quelque chose, mais c'est à la même idée, du coup, c'est la piste. C'est plus piste, track mais bon.
Ouais. Hayley Steinfeld qui joue Kate Bishop est vraiment super. Elle est pleine de malice et d'espièglerie. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Et je trouve même qu'elle représente plutôt bien la première génération qui était fan du MCU il y a à peu près 10 ans, où elle est complète, enfin, elle est fan de Hawkeye.
Ouais,
elle a
ouais,
le poster de lui et tout ça.
Elle l'a vu en plus.
Et maintenant elle est adulte.
Enfin, je trouve que du coup ça sonne bien avec un peu le Tom Holland du début de Spider-Man qui était totalement obnubilé par Iron Man, tu vois.
Ouais.
Ça répète un peu.
Mais le transfert au spectateur et à la spectatrice est moins évident parce qu'il a, il était trop jeune, il avait 6 ans je crois pendant Avengers, donc du coup elle a 6 ans aussi, ça marche pas. Mon argument ne marche pas. Jeremy Renner, je trouve qu'il sort pas vraiment de sa zone de confort, mais bon, il propose un Clint Barton chonchon comme jamais, comme d'habitude. Mais il est toujours hyper sympathique. Enfin, on a envie d'être son pote. C'est vraiment le pote à qui t'as envie de dire, allez, on va boire un coup après. Bon, le reste, un peu comme ce que vous avez dit, c'est banal, c'est pas ouf. Il y a un ventre mou au milieu. Il y a 2 épisodes où on se dit, bon, ce qu'on n'aura pas pu...
Sur les intrigues un peu...
Ouais, voilà. Il y a trop d'intrigues.
Je pense qu'il y avait besoin d'introduire aussi Mister J'ai une épée. J'imagine qu'il va servir à un truc à un moment donné, parce que là, on aurait pu l'enlever.
Je pense que lui, on le reverra jamais.
Tu crois?
Enfin, si, parce qu'il est lié à Kate, mais...
Non, je pense que c'est juste son beau-père. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il a une épée, il sait faire des trucs, c'est un méchant.
C'est pas un méchant.
C'est pas un méchant, en fait. C'est très subtil, mais on essaie de nous faire croire que c'est l'antagoniste.
Bon, ouais, je pense que c'est juste la bonne poire. Sa mère s'en sert comme ça.
Enfin, les intrigues, il y en a trop et elles sont pas super passionnantes. Enfin, par exemple, la fille muette.
Ouais, Maya, ouais. Par contre, si, ça c'était vachement intéressant parce que le fait que Clint ait perdu une partie de l'audition, je trouve que ça c'est un point dans lequel j'en ai pas du tout parlé. Mais le fait de la sourdité dans la série et a été amené d'une façon très intéressante.
Bah oui, je trouve aussi au début on dirait qu'ils vont en parler et
mais ils en parlent pas, mais ils le montrent au niveau sonore dans la série.
Oui. Ouais. Mais sur la fin, c'est quand
même c'est
vraiment
ça, c'est vrai
là,
que c'est vraiment bête, mais moi j'aime les passages où par exemple Clint perd son appareil où ils essaient de communiquer avec Kate dans la voiture, mais du coup il y en a un qui parle, l'autre il raconte, enfin ils se parlent pas quoi, ils se comprennent pas et c'est vraiment intéressant. Et même il y a des moments où son appareil fonctionne plus. Et tu entends ce que lui entend, en fait. Ça veut dire un bruit sourd, vide, ou quand il est au téléphone avec son fils. Cette scène est vraiment trop bien. Elle est vraiment magnifique. Genre, il appelle et il dit « Oui, chérie, j'arrive. » Et elle lui dit, c'est pas votre femme, c'est votre fils. Et du coup, elle lui dit ce qu'il raconte à la place de Clint. Cette scène est vraiment très belle. Et elle a fait passer beaucoup d'émotions, je trouve.
C'est vrai.
Donc, ouais, mais ça va pas au bout du truc.
Ouais, mais c'est déjà un début, je trouve.
Ouais,
moi, j'avais jamais vu de série où on te parlait de la sourdité avant. Enfin,
ouais, c'est clair, ça c'est bien.
Grand public comme ça.
Mais sauf, tu vois, enfin, pourquoi ne pas créer des techniques de communication entre Kate et Clint uniques et en fait, ça leur permet de se comprendre ou de se faire passer des messages. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait des setups, mais qu'il y avait jamais de payoff.
Mais il y a pas assez de temps.
Bah, il y a du temps pour raconter des trucs aux F, donc...
Oui, mais après, Clint n'est pas sourd en soi, tu vois, il a un appareil, donc il...
Ah, mais justement, pourquoi ne pas utiliser
sa sourdité, justement.
L'épisode où il est complètement sourd pour créer du lien entre eux qui est utilisé à la fin.
Mais il y en a, parce qu'au final, à la fin, ils arrivent à se faire comprendre.
Ouais, en parlant, quoi.
Mais je trouve que c'est quand même bien amené cette partie-là. C'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup, mais elle était vraiment pas mal.
Par contre, j'ai un coup de gueule. Ne ramenez pas des personnages de Netflix si c'est pour en faire ça.
C'était marrant, ils chopent la brique.
Ah ouais, la brique. Mais moi je pense que c'est pareil.
Mais non,
c'est
mais la brique c'est dans Spider-Man, les gars.
Mais non, c'est dans. Quoi ?
La brique c'est dans Spider-Man.
Oui, on comprend les films.
Oui, il y a son méchant.
Moi, je parle du Caïd qui était terrifiant, glaçant, monstrueux, enfin tout ce que vous voulez d'horrible dans Daredevil, qui était un antagoniste incroyable. Et là, c'est un espèce de bouffon avec une super force, des chemises hawaïennes et des chapeaux moches.
Aussi. Enfin, non, mais c'est le cas dans Daredevil.
Si, c'est ça.
Non, mais il est super fort, mais là, on l'a jamais habillé comme un clown dans Daredevil.
Il était habillé comme un clown.
Là, il avait une chemise hawaïenne et un chapeau dégueulasse. Enfin, vraiment, le chapeau lui va pas. Non, il était. Vraiment, je trouve que.
Après, là, c'est un peu le point style du.
Oui, non, mais
ouais,
je trouve que.
C'est pas... Mais moi, je trouve qu'il fait grave flipper. Hein.
Bah, moi, il fait vachement moins flipper. Il fait flipper parce qu'il y a l'aura l'aura de Daredevil de la série.
Il me fait trop peur, ce
là, là, c'est, là, on est clairement plus sur le Kaïd qu'il y avait dans le dessin animé de TF1 quand on était jeune. Une espèce de guignolo qui parle même pas bien. En VF, il parlait pas bien.
Oh, oui, il parle bien.
Je dis dans le dessin animé.
Ah oui, dans le dessin animé.
Là aussi, il parle bien en VF, mais je veux dire. Il a deux doigts de tuer Daredevil dans la série. Là, il se fait un peu
malmené, quand
malmené par une jeune en apprentissage.
Mais moi, je pense que c'est possible parce que justement, il la sous-estime de ouf. Il pense vraiment qu'elle est bas de gamme de ouf et il se fait avoir juste parce qu'il la sous-estime.
Ça peut être
vrai. De toute façon, il y a aucune importance. À la fin, il se fait pas attraper. Il est parti. La police arrive et il est
oui,
plus
il
là.
Il a disparu, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a ramassé son cadavre. C'est tout.
Oh, non, quand même pas. Faut pas exagérer. Je crois que dans Daredevil, il s'en est pris des trucs. On croyait qu'il était mort et il était toujours vivant. Enfin.
C'est vrai.
Ouais, mais voilà. À voir ce qui va advenir de ce personnage, mais j'espère qu'il va pas être trop édulcoré. On passe à la suite.
Alors moi, ça va aller plus vite. Hein.
Eh ben oui, parce que là. Tu vas enchaîner deux séries.
Ouais.
La première, c'est Single Parents.
Tu fais les deux résumés
parents.
En une fois.
Non. Allez. Oui, alors on va commencer par Single Parents, la saison 1 de 23 épisodes de 25 minutes environ. C'est sorti en septembre 2018, donc ça date un petit peu et c'est dispo sur Disney+. Alors, dans cette série, on suit le quotidien d'un groupe de parents célibataires qui s'épaulent pour élever du mieux possible leurs enfants et se soutenir dans leur recherche de l'amour. C'est trop beau. Alors, il n'y a que deux saisons disponibles parce qu'il me semble que ça a été annulé après la saison 2, malheureusement. Donc, voilà, donc ceux qui ne veulent pas regarder des séries qui ont été annulées, ne regardez pas, quoi. Mais sinon, c'est une série feel good. Je l'ai trouvée sur Disney+. Et c'était vraiment... je me suis dit, tiens, j'ai envie de regarder un peu... Je sais pas si ça vous manque, moi, mais les sitcoms, ça me manque un peu. Tu vois, la sitcom que tu lances et en faisant autre chose à côté. Ben, moi, c'est cette idée-là, en fait. Que...
Bah, tu peux regarder.
Oui, mais c'est déjà des choses que j'ai regardées. Là, je voulais quelque chose de nouveau. Donc, j'ai lancé celle. Oui, par exemple, mais pas toute seule. Tu vois, j'ai envie de partager cette magnifique série avec Emilien. Donc là, c'est un truc que je voulais regarder pour moi.
Okay.
Donc, ce groupe de parents célibataires est vraiment sympa. Leurs enfants ont tous beaucoup de réparties et sont un peu loufoques. Typiquement, il y a deux jumelles. Elles font des gros travaux, tu vois. Elles peuvent te couler le béton.
Ah oui, d'accord.
Elles peuvent faire ton carrelage, te repeindre les murs.
Mais elles ont quel âge ?
Faut les embaucher.
Elles ont 7-8 ans, je pense.
C'est pas réaliste.
C'est trop tôt.
Non, c'est pas du tout réaliste. Aucun enfant n'est réaliste. Voilà, donc ils sont pas du tout réalistes. Par contre, ça rend les situations amusantes et comiques. Enfin, c'est vraiment trop cool. Et c'est marrant à regarder. Puis, en plus, il y a une des héroïnes qui est Angie, qui est jouée par Alecton Mester. Et en fait, j'adore cette actrice, c'est l'actrice de Blair dans Gossip Girl. Et vraiment, j'adore. Elle est trop cool. Et il y a également un autre acteur qu'on avait déjà vu dans The Good Place, qui joue.
Ok,
je sais pas. Un papa célibataire qui a un petit garçon. Et c'est trop marrant.
Moi, j'aimais bien quand tu regardais, parce que tu regardais en VF, et il y a un personnage qui a la voix de Donald Renew.
Oui, exact.
Donc, ça me fait toujours plaisir. Voilà, chaque fois, je le dis à chaque épisode, mais...
Donald Renew est là.
Mais j'aime bien Donald Renew. Voilà. C'est bon ?
Ouais.
Très bien. Eh ben, tu vas nous parler de Lutin maintenant ?
Oui, alors c'est Lutin en français, mais c'est pas Lutin. Enfin, ça s'appelle Health peut-être en...
Healthies ?
Ouais, enfin, j'en sais rien.
Healths ? Je sais pas s'il y a un... Bon.
En tout cas, ça s'appelle pas... Ça n'a rien à voir avec des lutins. C'est plus des elfes de la forêt, si j'ai compris. Mais eux, en français, ils ont traduit ça par Lutin. Aucun intérêt.
Chez Noël ?
Faut être précis sur la mythologie.
Alors, j'ai regardé la saison 1 qui fait 6 épisodes de 6 épisodes de 23 minutes environ. C'est sorti le 28 novembre 2021. C'est une série danoise et c'est sur Netflix. Le résumé. Les vacances de Noël d'une ado et de sa famille virent au cauchemar lorsqu'il découvre une ancienne menace qui plane sur l'île où il séjourne.
C'est un drame ou une comédie ?
C'est horrifique. Okay. C'est une série de Noël horrifique.
Donc ça fait peur.
C'est un peu comme les Gremlins.
Mais les Gremlins, oh,
c'était une comédie horrifique. Là, c'était pas
ah
très
ouais,
drôle.
Ah ouais, non, là, c'était pas drôle, non. C'était Noël. En fait, tu remplaces le comique par Noël.
Ok. Non, mais parce que pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des lutins rigolos, quoi.
Bah, si tu veux en savoir plus, j'ai fait un article sur cette série.
Ok.
Mais il est pas sorti,
Si, hein, il est
Pardon.
Sorti.
Si, pour moi.
Si, je l'ai fait le jour même, je crois, où j'ai regardé. En fait, j'ai regardé cette série en une journée. C'était très bien, c'est super rapide. Du coup, c'est une. Ouais, j'ai regardé la mini-série en une journée. C'est très sympa. C'est une série de Noël horrifique. Toute l'histoire se déroule sur une île où une famille vient passer Noël. C'est clairement une famille de citadins qui ne respectent rien. Genre, ils coupent un sapin dans une forêt qui est une réserve naturelle, tu vois. Les mecs, on n'en rien
c'est
à foutre.
C'est des Parisiens, en fait.
Ouais, c'est un peu oui. ça. Les gens sur l'île. Les gens sur l'île sont pas très accueillants et une partie de l'île est entourée d'une énorme forêt.
Ah, bah voilà, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure. Ça s'arrêtait pile au milieu de la phrase.
Ouais, d'une énorme forêt et dans cette forêt, il y a des créatures bizarres et on
qui
sait pas trop
qu'on
quoi.
Coupe les arbres. Est-ce que s'ils avaient pas coupé l'arbre, il
non.
se serait rien passé ?
Non, non, parce qu'ils ont coupé l'arbre dans un autre endroit. Mais
peut-être
en fait,
que c'est l'âme de la forêt
écologique.
En fait, c'est nous, on va suivre une jeune fille qui doit avoir, je dirais, 14 ans. Et en fait, ses parents aussi, en plus de couper des arbres dans la forêt, ils renversent une bestiole sur la route, tu vois. Donc ils s'arrêtent, elle voit du sang un peu bleu, chelou. Donc elle regarde et en fait ses parents continuent la route comme si de rien n'était et elle décide de retourner sur le lieu de l'accident et d'aller voir ce que ses parents ont laissé sur la route et elle trouve un petit elfe de la forêt.
D'accord.
Voilà, un bébé elfe de la forêt. Donc
qui
elle non il est un peu blessé mais elle le recueille, elle le soigne et voilà jusque bah du coup les parents de cet elfe de la forêt sont pas très contents qu'on leur ait pris leur bébé.
Ce qui se comprend.
Ouais, ça fait pas super méga peur. Enfin, j'ai regardé et je suis toujours là, quoi. Alors que je suis vraiment super peureuse.
Ça fait une crise cardiaque.
Mais par contre, les bruits des elfes dans la forêt, quand ils se déplacent, ça fait en fait leur corps, c'est comme du bois qui craque. Mmh. Donc à chaque fois qu'ils bougent, ça fait.
Ça peut être très
et ça fait
max,
vraiment
hein.
des bruits qui font très peur. Et moi, ça m'a fait
mais
penser.
C'est plutôt malin parce que ça insinue que, genre, dans la forêt, dans nos forêts. Il y a du bruit qui craque, du bois qui craque, ça peut dire il y a des
c'est encore ailes. Plus flippant, je tape.
Ouais. Et du coup, le truc, moi, ça m'a fait penser aux scènes dans Doctor Who quand on est avec
les anges
pleureurs. Ouais. Bah, tu vois ça, et bah, je ressentais pareil. En fait, quand tu regardes l'ange et que tu fermes les yeux et que tu sais qu'il s'approche, et bah, là, c'est pareil, quand tu l'entends le bruit, mais en fait, tu sais pas où est-ce qu'ils sont
ça
autour
crispe.
De toi.
Ça serre les fesses.
Et là, ouais. Non, c'est vraiment une super mini-série, je vous la conseille. Et il y a une ouverture pour une suite, donc on verra s'ils font une suite ou pas.
Bah, peut-être à Noël prochain.
Et en plus, l'esprit de Noël, vraiment, ça fonctionne bien. Enfin, le côté Noël, en plus, c'est une série qui a été faite au Danemark, donc t'as vraiment l'ambiance forêt, sombre. Non, c'est cool.
Super. Damien, tu vas nous parler de Lost in Space maintenant.
Oui, j'ai regardé la saison 3 qui est sortie ce mois-ci, je crois.
Ouais, je crois.
J'ai plus la date de sortie en tête. En tout cas, ça avait commencé à sortir en 2018, parce que j'ai noté cette date.
Ouais, on avait regardé en 2018 la saison 1.
Pas moi. Ouais.
Mais si.
Non.
Ah ouais ?
Non.
Moi, j'avais regardé.
Moi aussi, j'avais regardé.
J'avais pas aimé.
Bah, attends. du coup, c'était 8 épisodes de 50 minutes environ. En fait, c'est des longueurs un petit peu variables, mais on s'en fiche. Et c'est sorti sur Netflix. Alors, le résumé. Après avoir passé un an... Ah oui, par contre, ça va spoiler les deux saisons d'avant.
Non, mais t'inquiète, on ne compte pas regarder.
Okay. Après avoir passé un an piégé sur une planète mystérieuse, Judy, Fanny et Will... Ah non, Will et le robot tentent de trouver le titane dont ils ont besoin pour atteindre Alpha Centauri avec les 97 jeunes colons. Et alors là, si vous n'avez pas vu avant, vous êtes déjà très perdu. Mais bon.
Ah, ils ont retrouvé Alpha Centauri avec les 97 jeunes colons, c'est cool.
Ouais, c'est cool. Mais ils doivent d'abord découvrir les secrets qui changeront leur vie à jamais. Pendant ce temps, John et Maureen, avec Don à leur côté, affrontent des obstacles insurmontables alors qu'ils tentent de retrouver leurs enfants. Alors que Judy essaie de retrouver Grande Kelly, Penny et Will explorent un mystérieux tunnel. À des années de lumière de là, Maureen et John et Don recherchent les restes de la SRA. Cette fois, les Robinsons sont séparés et font face à la plus grande menace extraterrestre à ce jour.
Les Robinsons, c'est leur nom de famille ?
Oui.
C'est marrant.
Ils sont en mode les Robinsons, mais c'est pas perdu sur l'île, c'est perdu dans l'espace.
Et ils sont pas tous.
Tu voulais trop t'en servir.
Et ils sont pas tout seuls, ils sont une famille entière, donc ça marche encore moins. Alors, du coup, comme un gros malin, j'ai regardé cette saison 3 alors que je n'avais pas vu la saison 2.
Ah, mais alors.
Mais comment
donc,
t'as
j'ai
fait
rien compris. Et j'ai vu la 1, je me suis dit, bof, c'est bof. Ensuite, la saison 2 est sortie, je me suis dit, la saison 1 était bof, j'ai pas regardé. Et là, la saison 3 est sortie, je me suis dit, ah, c'était quand même pas si mal, je vais regarder.
Mais pourquoi t'as pas regardé la 2 enfin,
mais
comment
j'avais
t'as
oublié.
Fait
il croyait
j'avais
qu'il
oublié,
avait
je pensais
regardé
l'avoir
la
vu.
1 et la 2.
Voilà. Ouais, mais sur Netflix, quand t'étais plus sur le même compte.
Ah, c'est vrai.
Parce qu'en principe, si tu fais lancer sur Netflix, il va te remettre là où t'en étais.
Bah alors, tu peux sélectionner la saison.
Des fois, quand il y a des nouvelles saisons, tu peux lancer direct avec la nouvelle saison.
Et vraiment, t'as été au bout pour te dire, je comprends.
Ah oui, j'ai tout regardé. Non, mais à des moments, je raccrochais un peu, tu vois. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté ? Alors, c'est censé être 97 enfants. C'est pas du tout des enfants. Ils ont tout à fait une société d'adultes super bien équilibrée, avec un chef, des gens qui ont des responsabilités et tout. Les adultes, eux, ils sont complètement cons, alors que c'est censé être des gens super intelligents qui ont été sélectionnés. Donc, ça n'a pas de sens. Enfin, sélectionnés pour partir dans l'espace. Le scénario, il est méga compliqué. Alors, je pense que là, du coup, le fait que j'ai pas vu toutes les saisons a pas dû aider. Et par contre, le gros point positif, la réelle, elle est très bien. Les images de planètes qui sont censées pas être la Terre, ou les images de l'espace, ou les... c'est pas vraiment de la réelle, mais même les designs des vaisseaux et tout. Toi, c'est très stylé.
Est-ce que quand tu dis ça se voit qu'on n'est pas sur Terre, les paysages sont exotiques, ou alors c'est des forêts parce que ça a été tourné au Canada.
Il y a un peu des deux, mais même quand c'est genre exotique, tu sens qu'il n'y aurait pas ça sur Terre. Genre,
C'est bien fait, quoi.
Parce qu'il y a une faune et tout, c'est pas juste. C'est vraiment bien fait quand même. Voilà. J'ai pas trop aimé, mais je pense que si j'avais vu la saison 2, j'aurais peut-être trouvé ça
correct. Tu vas la regarder.
Pourquoi avoir fait 3 saisons de ce truc par contre?
L'histoire elle marche bien, je pense, pour des enfants c'est sympa.
Ouais, c'est un truc familial, quoi.
Ouais, clairement, ouais. Mais bien fait, donc c'est cool. Voilà. J'ai l'impression d'être toujours positif alors qu'en plus.
Oui, c'est vrai. Toi, t'aimes tout.
Tu prends un air très chonchon pour dire c'était cool. J'ai adoré. On va parler d'une série, enfin, vous allez parler d'une série de Arcane.
Non, mais moi j'en ai déjà parlé.
Ouais, mais on va pouvoir échanger. T'en avais parlé 2 minutes. On va parler
Je pense que vous allez être plus enjoué.
On va parler de Arcane, la saison 1, 9 épisodes, environ 41 minutes, sorti le 6 novembre 2021 sur Netflix. Alors, j'ai mis ce petit résumé, même si, je trouve que les résumés que j'ai trouvés sont vraiment nuls. Le créateur de League of Legends propose une série animée sur les origines de 2 championnes emblématiques de la Ligue et sur leur pouvoir qui va les séparer. Toutes les gens ont un début. Sauf que
c'est pas un résumé, quoi.
Non, mais en fait, le problème, c'est que tous les résumés parlent des origines des 2 championnes emblématiques de la Ligue. Mais du coup, moi, je sais pas ce que c'est la Ligue.
Il y a vraiment un truc qui s'appelle la Ligue dans League of Legends.
C'est la Ligue des légendes.
Ouais, c'est la Ligue des légendes.
Ah oui, non, il y a vraiment un truc qui s'appelle la Ligue.
Ouais,
d'accord. Non, enfin, parce que c'est vrai que dans le résumé, t'as vraiment l'impression que genre il y a un tournoi des gens.
Non, mais du coup c'est ça. Moi, c'est bien, mais la Ligue c'est quoi ? Pourquoi c'est des légendes ? Moi, en fait, c'est parce que j'ai vu dans la série. Et c'est pas. Et en plus, j'ai vu un autre résumé qui disait des sœurs ennemies.
Ah bah ça c'est vrai par contre.
De quoi ?
Des sœurs, elles sont ennemies.
Non, elles sont pas. Pour moi, elles sont pas ennemies. Vie, elle passe toute la série.
Peut-être essayer de faire un résumé un peu plus correct.
Après, on va peut-être pas débattre sur un résumé. C'est l'histoire. Netflix ne nous est pas très doué en résumé.
Ouais, non, on s'en moque. Mais du coup, c'est l'histoire de 2 sœurs qui vivent dans un endroit qui s'appelle la Ville Basse.
C'est un genre de bidonville.
Ouais.
À côté d'une ville méga technologique.
C'est ça.
Mais steampunk.
Et du coup, un jour, il y a un accident qui les sépare.
Oui.
Et du coup, les 2 sœurs sont séparées et malheureusement, il y en a une des 2 qui pète un boulon.
Ouais, elle avait un terrain déjà un peu problématique, ça se sent.
Et du coup,
elle est élevée par
un
caïd qui en fait une arme.
Ah là 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 là.
Moi, je trouve pas qu'elle avait un problème dès le départ.
Mais si.
Moi, je trouve pas que Boulder, elle est bizarre dès le départ.
Mais si, elle sous-estime dès le début et tout.
Oui, mais c'est pas parce qu'elle a pas confiance en elle qu'elle va devenir schizo comme
si.
Il se passe.
Tous les gens qui ont pas confiance en elle deviennent des psychopathes.
Enfin bon. Moi, j'ai jamais joué à League of Legends.
C'est l'esprit criminel.
Moi, j'ai jamais joué à League of Legends, j'y connais absolument rien. Et pourtant, j'ai adoré Arcane. Donc, comme quoi,
ça c'est bien fait. Parce que c'était. Ouais. Netflix le disait.
Ouais, l'histoire est prenante et addictive, genre j'avais toujours envie de connaître la suite. En plus, moi j'ai attendu que tout soit sorti pour regarder, donc j'arrêtais pas, genre la suite.
Oui, c'est vrai que tout est pas sorti d'un coup.
Non, c'était 3 épisodes par semaine. Visuellement, l'animation est incroyable, elle devient même de plus en plus jolie, elle est meilleure à chaque épisode.
C'est bizarre ça.
Ouais, je sais pas pourquoi.
Il y a de plus en plus de combats et de scènes d'action.
Ouais, il y a une évolution.
Ah ouais, c'est que c'est plus ambitieux, mais c'est bizarre que. Enfin, vu mon avis, tout a été créé en même temps, donc c'est.
Mais je pense qu'ils ont voulu faire un gros final et
que ça se bonifie au niveau des visages et tout.
Ah ouais, j'ai pas vu, donc je peux pas. Mais ça m'interpelle quand même. Mais je vous crois.
L'histoire de Powder Jinx, du coup, qui est Powder ou Jinx, comme vous voulez, m'a beaucoup émue et son sort est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça trop triste, j'ai trouvé ça dramatique, son histoire.
Elle est tarée, quoi.
Non, mais non, mais ça se passe pas comme ça. Je pense que malgré tout, elle reste mon personnage préféré. Elle est compliquée, pleine de facettes et de cicatrices qui la rend certes brisée et folle, mais également vraie. J'ai hâte de découvrir la suite de l'univers. Mais du coup, tu dis qu'elle est tarée, mais elle est... Enfin, c'est à cause de tout ce
qui... En fait, elle n'est pas tarée dès le début. Elle a fait une erreur qui fait qu'elle a tué des gens et elle est devenue tarée après. Mais du coup, elle est
tarée. Mais elle n'est pas tarée qu'à cause de ça. Elle est aussi tarée à cause de l'espèce de truc violet là, qui se promène partout.
Ah oui, il y a une drogue aussi. La drogue, c'est mal.
Ouais, enfin, il y a tout un aspect qui fait qu'elle est tarée.
C'est vrai.
Mais après, elle s'est aussi attachée à la seule personne qui lui donnait de l'amour et bah, c'était pas une bonne personne, quoi.
Mmh. Oui, sa figure paternelle n'est pas très fiable.
Non.
Ça arrive.
Oui, c'est triste.
Mmh. Après, malgré tout, tout le long, il y a aucun moment où il se retourne contre elle. C'est genre.
Non, lui, il est vraiment attaché à elle. Hein. Mmh. Lui, il dit que c'est sa fille. Même à la fin, il dit Je t'aurais jamais donné. Enfin, je t'aurais jamais vendu pour la paix. Donc lui, il était vraiment très attaché à elle. Donc c'est vachement beau comme histoire. Et à côté de ça, t'as ta vie qui essaie toujours de la récupérer et de tout faire pour la sauver. Et ça fonctionne pas. Mais il y a plein d'histoires, en fait, dans l'animé. Au niveau des scènes d'action, moi, j'ai adoré. Enfin, ma scène préférée, c'est celle où, quand tu découvres que Vi, elle a les espèces de gros points là, qui marchent avec la magie.
Ah oui.
Et ouais. Jace, c'est comme ça qu'il s'appelle, il a son énorme marteau pour combattre. Et cette scène-là, quand il a un énorme marteau magique.
Ouais, ouais.
Et cette scène-là, elle est trop bien.
Oui, elle marche très bien aussi, je trouve. Je suis assez d'accord. En plus, du coup, les lumières, elles sont vraiment très belles et tout. Oui. C'est trop bien géré.
Et ça fait pas trop jeu vidéo dans la narration ?
Pas du tout.
Non, non, ça fait vraiment une histoire qui n'a rien à voir.
Si on sait pas que c'est adapté d'un jeu vidéo, il n'y a aucun moyen de le savoir.
Non.
Ça, c'est cool aussi.
Mm. Non, vraiment, c'était top. J'ai noté des choses, mais c'est à peu près la même chose. Genre, l'animation est de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes. Oui, bon, bah voilà, on l'a déjà dit. Et les persos, ils sont... En plus, le design des persos, tu sens qu'il a été... Enfin, en fait, c'est normal, ils ont pas juste la série, ils ont tout un background dans le jeu et tout, mais tu sens que...
Ça a été retravaillé.
Réfléchi et tout depuis longtemps, donc...
Et j'espère qu'il y aura une suite. Je sais pas s'ils ont annoncé une suite.
J'ai pas regardé, j'ai aucune idée.
Et moi j'aimerais bien. Aussi. Parce qu'en plus, il y a un final.
Ah, on a pas dit, mais le studio est français.
Le studio est français.
Ça c'est bien.
Des Angevins, je crois.
Le final est grandiose dans le sens où il se passe un truc important. Donc comment ça va se passer par la suite ?
La fin est ouverte.
Ouais. C'est une vraie saison.
Ouais,
ah,
pas
oui,
genre
oui,
la
non,
première
non,
partie d'une
parce
saison.
Que c'est bien parce que ça introduit dans les trois premiers épisodes les deux filles elles sont jeunes.
Et après il y a un gros laps
après il y a un gros ouais il y a un gros laps de temps et puis hop tu les retrouves et là elles sont pas adultes, elles sont jeunes adultes quoi, elles sont ados quoi.
Ouais c'est dur à dire. Bah en plus elles ont pas le même âge donc.
Oui mais elles sont à peu près ados, tu vois, il y en a peut-être une qui a Jinx, elle doit avoir 16 ans, quoi. L'autre, elle a peut-être un peu plus, une vingtaine d'années. Vie, mais... Et je pense que les saisons après, bah, tu les verras peut-être adultes, justement. Mais maintenant, elles sont ennemies, oui, je pense. Je pense.
Tant mieux, parce que comme ça crée des histoires.
Ouais, mais c'est dramatique,
si
quand même.
Si j'étais juste pote, elle serait moins intéressante.
Mais si, elle serait trop forte.
Pour continuer, on va écouter une bande-annonce.
Il s'opère un curieux changement. Notre monde semble agir de sa propre initiative. Le Nord et le Sud sont en guerre. Les monstres rôdent quand ils devraient hiberner. Fin des temps.
J'ai survécu à trois prétendues fins des temps. C'est que des conneries. Ce continent n'est fait pour personne. Aucun de nous n'aura la paix. Tant que des monstres arpenteront ce monde.
C'est chez moi. C'est mon combat. Ton empereur adoré a un but précis. Tu n'es qu'un pion qui l'aidera à l'atteindre.
Je reformerai notre armée. Y rajouterai des hommes. Nous sommes un empire. La guerre ne fait que commencer.
La peur est une maladie. Elle te ronge de l'intérieur. La meilleure chose à faire, c'est de l'affronter. Vous êtes prêts ?
Si tu dis vrai à propos des dons que posséderait cet enfant, alors tu ne peux rien pour l'aider. Le barde, le mythe, la légende.
On a besoin de ton aide.
D'accord. Mais avant, chers messieurs, ce fut un honneur. Bah, quoi ? Je me suis fait de nouveaux amis. Et oui, c'est la vie. On est jaloux ?
Vous avez reconnu la saison 2 de The Witcher. Je l'ai pas regardé, donc je vais laisser la parole à Damien et Mathilde.
Alors, saison 2, 8 épisodes d'environ 60 minutes, c'est sorti le 17 décembre 2021 et c'est sur Netflix. Et moi et Damien l'avons regardé. Le sorceleur Gérald.
Gérald. Tu veux nous dire des trucs.
Geralt, un chasseur de monstres mutants, se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains se révèlent souvent plus vicieux que les bêtes. C'est le résumé de la saison 1.
De Netflix ?
Je sais plus.
C'est pas faux, mais c'est très flou.
Ouais, c'est flou. Hein. Mais si on veut revenir un peu, on peut dire que dans la saison 1, on découvrait Geralt, on découvrait l'univers, on découvrait la naissance et l'histoire de Yennefer. Et à la fin de cette saison...
On découvrait Ciri aussi beaucoup.
Oui, Ciri aussi. Et ça se finit sur une bataille. Oui. Et du coup, là, on est après la bataille et Geralt et Ciri se sont enfin retrouvés. Que est-il arrivé aux autres ? Bah, la saison 2 nous le dit. Moi, j'avais bien aimé la saison 1, malgré les méli-mélo temporels. En fait, moi, je crois que j'avais bien aimé les méli-mélo temporels. Bah, en gros, ça, c'était vite... je crois qu'à partir de l'épisode 5, on commençait vraiment à comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, ça ne m'avait pas tant gêné que ça. Mais je crois que j'ai préféré cette saison 2. J'ai trouvé qu'il y avait plus de trucs sympas. Et pour en parler, j'ai fait les plus et les moins.
Un classique.
Un classique. Alors, les plus. L'épisode 1, il se suffit à lui-même, je trouve. On pourrait juste le regarder n'importe quand. Et il est vraiment très bien. C'est un de mes épisodes préférés de la saison, je pense.
Mais du coup, on pourrait aussi l'enlever.
Oui, on pourrait aussi également l'enlever. Mais je trouve qu'il fonctionne bien parce qu'on dirait... C'est comme un conte, en fait. Il raconte vraiment une morale. Et en fait, il raconte une morale qui va être valable... Bah, qui était déjà valable dans toute la saison 1, mais qui est aussi valable du coup dans cette saison 2. Et il nous raconte exactement... c'est la fin de l'intro qui dit... Les humains se révèlent souvent plus vicieux que les bêtes et plus méchants. Il ne faut pas se fier aux apparences.
C'est aussi un peu pour se remettre dans l'ambiance, peut-être.
Oui, aussi, peut-être.
Pour qu'on
peut-être,
se remette dedans et avant de repartir dans les intrigues.
Ouais, puis ça suit le livre. C'est un chapitre du livre.
Mais c'est vrai qu'ils auraient, ils auraient totalement pu l'enlever, mais je pense qu'ils ont peut-être aussi voulu rester sur le format 8 épisodes et qu'ils se sont dit, on n'a pas assez pour faire avec le reste.
Allez,
donc,
on adapte un chapitre.
En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé cet épisode.
Oui, c'est bien.
Sinon, une série... Qu'est-ce que j'ai mis ?
Ah oui,
une série fantastique qui utilise des elfes, des monstres, de la guerre, etc. pour mieux nous renvoyer les problématiques de notre société.
Moi, c'est Bright, ça.
Ouais, ça marche.
Avec Will Smith.
Mais moi, je trouve que ça marche aussi pour The Witcher. Typiquement, quand il parle des elfes, du fait qu'ils sont chassés, c'est du racisme, quoi.
Oui.
Et il y a plein d'autres choses comme ça. Les sorceleurs, pareil, ils sont montrés comme des monstres. Enfin, en gros...
Alors que c'est juste des mutants.
Bah, ils sauvent le monde, quand même.
Oui.
Donc, on pourrait un peu être sympa avec eux, même s'ils sont pas comme les autres.
Surtout qu'ils ont pas choisi d'être comme ça.
Oui, en plus. À part d'autres, peut-être que les prochains choisiront maintenant. On verra.
Ça spoil.
Non, il n'y a pas de... les créatures, on en voit plus et elles sont mieux faites. Alors, je réfléchis et je ne suis pas sûre qu'on en voit plus, mais en tout cas, je trouve qu'elles sont mieux faites.
Ah ouais, bah, moi, je trouve qu'elles étaient déjà bien faites dans le premier. Elles sont bien creepy, flippantes et tout. Quoi.
Ouais, mais là, il y a des nouvelles créatures avec, qui viennent du monolithe.
Ouais.
Et je trouve qu'elles sont vraiment... elles sont super bien designées.
Ouais.
Il y avait les... Comment c'est pas des dragons, c'est des... Si, c'est des espèces de dragons. Des basiliques.
Ah oui, mais ça c'est un espèce de gros serpent.
Ouais, ben bah, ils les appellent les... Moi j'ai regardé en VO aussi, mais en sous-titré. Et je crois que... Tu sais, les deux gros qui sortent dans la fin. Oui. Ah, il y en a un blanc aussi. Et ben bah, ça, je l'ai trouvé trop flippant. Il y a aussi bah, la créature un peu arbre. Elle se fait vite démonter la tronche, mais elle est flippante. Et celle qui suit aussi. Mais non, moi j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment bien faites. J'ai mis aussi, en plus, l'aspect fantastique, magique fonctionne bien avec des effets plutôt simples. Genre par exemple, quand on n'est pas dans la réalité, il y a un flou autour de l'image. Ouais, des changements.
Ça fait pas crado non plus.
Quoi. Ouais, des changements colorimétriques aussi. Et en fait, ça fait très, c'est très propre. C'est pas super incroyable à faire hein, au niveau. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien et on ressent en fait l'effet magique derrière. J'ai mis, on développe mieux le personnage de Ciri et c'est intéressant de la voir et de voir son évolution et le commencement de, bah, de son apprentissage aussi, quoi. De la voir évoluer et je trouve ça cool. Et apercevoir de quoi elle est capable de faire et ce qu'elle pourrait devenir pour la suite. Moi j'ai bien aimé parce que je trouvais que dans la saison 1, elle en prenait plein la tête et bah on. Enfin voilà, elle était là quoi, mais. C'était... Moi, ça m'intéressait pas du tout les parties où elle était là. C'est ce que je trouvais le moins intéressant.
Ouais, mais c'était vraiment une préparation parce que je pense que du coup, c'est ce qu'on avait dit à la fin de la saison 1, c'est que c'était une espèce de préparation pour la suite quoi.
Ouais, elle était introduite.
Ouais. Ouais, elle était juste introduite, mais en fait. Elle...
Non, mais on en parlait tout le temps. Elle était introduite, mais elle était tout le temps là, mais elle faisait,
mais elle faisait rien. En fait, elle subissait les événements chaque fois. Il lui arrivait plein de trucs, mais elle subissait. Et enfin, j'ai mis. Bon,
il y a ce qu'il y a.
Ouais. Et bah, il revient. Le barde revient avec une super chanson. Dans la saison 1, on avait Toast a Quen to Your Witcher. Et il revient en force avec Burn, Butcher, Burn. Et moi, j'adore cette chanson. Elle est vraiment trop bien. Et je trouve que. Bon, après, elle est trop bien en anglais. Hein. Je t'avoue qu'en français, c'est.
Je suis pas sûr qu'il est traduit.
Si, il est traduit.
Voilà. On en avait parlé de. Pourquoi c'était hyper dur de traduire une chanson.
J'imagine. Par contre, ouais. Moi, du coup, moi, je l'ai pas trop aimée, cette chanson.
Ah ouais, moi, je la trouve...
Enfin, elle est là, quoi. Ça va bien, mais ça s'arrête là.
Ah oui, moi, je trouve qu'elle montre à quel point le bard était vraiment triste. Enfin, de se faire... de se faire envoyer bouler par...
Ça, c'est vrai.
Par... Geralt.
C'est vrai.
Du coup, moi, j'ai vraiment aimé cette chanson. Et musicalement, elle est vraiment trop bien. Vraiment. Les moins, parce qu'il y en a... Est-ce que t'as des plus à rajouter ?
Il y a eu quelques moments où j'ai trouvé qu'il y avait quelques bêtes qui n'étaient pas si bien faites, mais genre...
Ça, c'est un moins, ça.
Ouais. C'est un moins.
Ah, pardon, on était dans les...
Je disais des plus.
Henri Cavill.
Henri Cavill en plus ?
Ouais.
Ouais, j'avoue. Il tient vraiment... La série tient sur ses épaules.
Ouais.
Le mec, il pourrait juste être... Juste lui.
Se balader dans la nature.
Je pensais que ça serait ça, en fait. Quand je voyais des bouts de jeux vidéo, il était tout le temps tout seul, le gars. Donc je pensais qu'en fait, la série, ça serait ça.
Mais après,
Henri Cavill qui se promène et qui rencontre des trucs.
Bah, c'est un sorceleur, donc c'est une partie de sa vie. Mais là, on joue pas en jeu, tu vois, donc on raconte
mais c'est normal,
son histoire.
Ouais.
Mais même dans le jeu, c'est super scénarisé. T'es souvent avec d'autres gens et tout, donc... j'ai bien aimé aussi le fait qu'on introduise la chasse sauvage, The Wild Hunt, à la fin, là.
Même si moi, j'ai pas du tout. Moi, j'ai pas trop compris. En fait, on la voit et tout, mais je c'est comprends pas l'implication.
En fait, du coup, dans l'univers de The Witcher, les monstres, ils viennent
d'univers parallèle.
Ouais, d'univers parallèle qui sont rencontrés à un moment donné avec celui de The Witcher. Et dans tous ces mondes-là, il y a des antagonistes un peu badass, et c'est The Wild Hunt.
D'accord.
Qui arrive à traverser.
Mais même si j'ai compris, en fait, les humains sont arrivés sur ce continent comme ça aussi. Les mondes se sont un peu cassés. Et en fait, à la base, le continent sur lequel ils sont appartenait aux elfes. Et les humains ont débarqué suite à un événement en même temps que les monstres et les magiciens et tout ça. Et en fait, ils se sont tous retrouvés là. Mmh. Et en fait, c'est plutôt incohérent parce qu'au final, les elfes, c'est leur terre natale. Et c'est eux qui sont chassés par les humains, tu vois.
Ah, mais ça parle d'appropriation culturelle.
Oui, totalement, ouais.
Enfin, les Américains ont fait ça avec les... Enfin, les Anglais ont fait ça avec les... Comment il faut dire ? Les natifs américains.
Il faut pas dire... Non, ça, on va en parler après.
Et les moins maintenant ?
Les moins maintenant ?
Ou t'avais des plus encore ?
Non. Je veux dire, tous les trucs, je suis d'accord. C'était vraiment très bien.
Les moins, par contre, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup de personnages qui ont été introduits dans cette saison 2. Et du coup, je trouve que parfois, c'est compliqué de suivre le développement de tous les personnages. Donc, ça fait qu'il y en a qui ont des pas du tout de background, quoi. Enfin, ils sont là, mais on les prend plus au sérieux ou ils sont pas si intéressants que ça, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Typiquement,
l'histoire avec Triss, c'est pas développé du tout, alors que de mémoire c'est super important pour le livre parce qu'après il s'embrouille avec Yennefer à cause de ça et tout. Et là,
l'histoire avec Triss, mais je crois que c'est parce que dans la saison 1 il est pas avec Triss pendant un moment.
Bah si, justement.
Si, c'est ça.
Ouais.
Mais en fait là il l'envoie bouler parce qu'il aime Yennefer, mais elle revient à la recherche parce que. Mais ce qui est incroyable c'est qu'elle lui dit pas qu'elle est vivante, quoi. Enfin, c'est ça qui est violent. C'est un peu.
Il la ghost.
Les femmes et leurs secrets. Mais oui, c'est vrai que ça, ils le remettent pas sur le tapis, mais après, il part du principe que t'as regardé la saison 1, peut-être.
Oui, bah, je l'ai regardé.
Donc, tu sais
là,
que...
Là, tu l'as regardé.
Oui. Donc, tu sais qu'ils avaient déjà une relation avec...
oui, je suis...
tous les deux. Donc, ça va. Non, moi, je parlais, par exemple, de la générale qui est... Alors, qui est... Du coup, attends. Voilà, niveau géographique, qui est avec les elfes. Celle qu'on voit avec Yennefer au début qui est magicienne, la Black, et qui est du coup elle par exemple, et je trouve qu'elle est là mais elle subit, quoi.
Ouais, moi je trouve pas trop, pour le coup elle suit un peu le perso le perso qu'elle avait dans la saison 1 où elle arrivait là et se fait un peu manipuler, elle essaie de s'en sortir comme elle peut, quoi.
Ouais, mais c'est un peu, enfin je trouve qu'elle est un peu vite, quoi. Pas beaucoup de sens. Sinon, il y a quand même Yennefer qui perd clairement de sa grandeur sans sa magie. J'ai mis, elle a été un peu abandonnée aussi au niveau scénaristique. Parce que j'ai l'impression que clairement, elle subit elle aussi. Enfin, c'est pas. Ouais. Je trouve que par rapport à sa personnalité, même si elle a pas de magie, j'aurais tendance à dire qu'elle essaie de la retrouver, qu'elle fasse quelque chose. Et là, j'ai vraiment l'impression.
C'est ce qu'elle fait là dans l'histoire.
Non, elle essaye à la fin, mais bon, c'est servant de Ciri, mais c'est pas.
Mais justement, elle essaie de pas la retrouver parce que elle veut pas céder à la mère immortelle.
Ouais. Bon. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle perd quand même de sa grandeur. Mm-hmm. En plus, elle a toujours besoin du barde.
C'est vrai.
Ils font un duo incroyablement étonnant parce qu'ils se détestent. Ils se détestent. Et du coup, maintenant, ils sont potes. Des moins, d'autres moins. T'avais commencé avec un moins.
Bah oui, moi j'avais dit qu'il y avait quelques FX sur des monstres qui étaient un peu chum. J'en ai vu un ou deux, je me suis dit, oh, c'est un peu en dessous, quoi. Mais
il est en 3D.
Mais tu les as. Après, ça, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que je les regardais pendant un moment sur la télé.
Oui.
Et en fait, quand il y a des problèmes de Wi-Fi, des fois, ça ne charge pas aussi bien. Et du coup, je les ai téléchargés sur mon ordinateur. Et avec l'écran de l'ordi, je les ai pré-téléchargés, tu sais, sur l'application, et je les ai regardés quand ils étaient déjà totalement téléchargés. Et ça change la vie, quoi.
Après,
tu vois pas
logique,
du tout la même chose.
Plus ton écran est plus petit, moins tu vois les défauts.
Oui, ça aussi.
La qualité de mon écran d'ordi est mieux que la télé, je pense. Hein,
non, mais c'est plus petit, c'est plus compact.
Oui, mais la qualité de l'écran lui-même est plus élevée que celle de la télé. Enfin,
plus Netflix, c'est. Enfin, la qualité de Netflix est dégueu.
C'est ça aussi, je pense que les avoir téléchargés avant joue beaucoup.
C'est possible.
T'avais d'autres choses?
Non, bah non, non. Enfin, c'est passé un peu trop vite. Il n'y avait que 8 épisodes. Bah
ouais, ça, c'est un plus ou un moins, ça.
Je sais pas.
Bah franchement, il n'y a pas d'épisodes qui servent à rien, je trouve.
Non, bah il y a le premier qu'on peut enlever, c'est
oui,
tout.
C'est
et puis, si je trouve que du coup, c'est presque un peu trop lisse dans le sens où... Je sais pas. Je pense qu'en fait, je vais la re-regarder parce que, tu vois, du coup, je les ai vraiment enchaînés.
Ouais, moi aussi, je les ai enchaînés, ouais.
C'était cool, mais voilà.
Non, comment ça, Alice? Bah, je sais pas comprendre ce que tu veux dire.
Non, mais tu sais, des fois, tu regardes des séries et après, tu y repenses et tout. Alors que, autant la saison 1, du coup, je l'avais trouvée bien et elle restait bien en tête, autant là, vraiment, il y a un côté... bon, bah, tout est parfait, il y a rien de spécial à dire. En plus, du coup, je connais un peu l'histoire au travers des livres et des jeux vidéo et juste, bah, ça suit, il y a même pas de discussion sur est-ce que c'est bien adapté ou pas. Donc, bon, en même temps, c'est que c'est bien fait, donc c'est quand même plutôt bon signe, je pense.
Moi, j'étais plutôt contente de cette saison. J'ai trouvé vraiment bien. J'étais super contente de retrouver l'univers, les persos. Et je suis aussi contente de savoir que ça va pas être annulé, quoi. Que je me tape pas un truc qui va être annulé.
Il y a beaucoup trop d'argent avec pour...
Donc voilà, on sait déjà qu'il y aura une saison 3, une saison 4. Et à la fin de cette saison 2, du coup, on a pu découvrir le préquel de The Witcher Blood Origin. Enfin, la bande-annonce du préquel.
Je crois pas que je l'ai regardé, moi.
Et bah, si tu regardes jusqu'à la fin de l'épisode, du dernier épisode, t'auras la bande-annonce de The Witcher
Toujours
Blood Origin.
Toujours jusqu'à la fin.
Donc, non, du coup, on a pu découvrir la bande-annonce. C'est un préquel qu'on pourra découvrir en 2022. Ce qui, en gros, nous sert aussi à patienter jusqu'à 2023 pour avoir la saison 3 de The Witcher. Clairement, on l'aura pas avant, je pense. Enfin, je m'avance peut-être, mais pour moi, on l'aura pas avant. D'accord. Vu qu'au final, la saison 1, là, elle était en 2019. Je crois.
Non, c'était ça vraiment l'année dernière.
Moi, j'aurais dit l'an dernier aussi, mais...
Ah ouais, moi, je pense. C'est pas que c'était, c'était aussi tôt.
Ah, ouais, 20 décembre 2019, pardon.
Ouais, donc tu vois, ça fait 2 ans. Donc, je pense qu'on aura la saison 3 que en 2023. Et entre-temps, bah, ils vont mettre le préquel où on pourra découvrir l'histoire des premiers. En fait, c'est... C'est juste après, justement, tout le monde est arrivé sur le nouveau continent. Ah oui. Donc les elfes, les magiciens, enfin tout le monde est là. Et en gros, c'est comment ils arrivent à vivre tous ensemble et la création du premier sorceleur. Cool. Ça va parler de ça.
Eh ben, parfait, vous avez été exhaustif, c'est cool. On va parler d'une autre série Netflix que Mathilde et moi avons regardée. Il s'agit de You. La saison 3, et pas la 2,
ouais.
Qui compte 10 épisodes de 50 minutes. C'est sorti, malheureusement, la date...
Je crois que c'est en novembre.
Ah, en novembre, allez.
De cette année.
Le résumé, on retrouve Joe et Love qui ont emménagé dans une banlieue riche de Los Angeles. Ils sont maintenant mariés et parents d'un petit Henry. C'est pour eux le début d'une nouvelle vie de famille loin de leur démon passé. Pourtant, personne ne change vraiment.
Je tiens à dire que le résumé est de moi.
Oh, félicitations.
Bah, il est nettement mieux que ce qu'on lit d'habitude.
Mais j'ai pas trouvé de résumé. En fait, on trouve presque pas de résumé par saison. Ouais. Donc du coup, je l'ai écrit moi.
C'est même toi qui as fait la punchline finale avec les 3 petits points.
Oui.
Oh, vraiment, je pense que les services comme de Netflix n'auraient pas trouvé mieux. Alors, tu veux commencer ?
Bah oui, parce que moi je suis déçue. Donc ça, voilà. Cette nouvelle saison est décevante. Elle démontre que 2 psychopathes ensemble ne font vraiment pas bon ménage. Allez, mets-le ! Appuie ! C'est une blague ! Oh, mais quand même, si tu sais pas la reconnaître.
J'ai pas le.
Oh non, je
suis bon
trop déçue.
Pardon.
Parce que franchement, c'était une bonne blague.
Faut que tu préviennes. Fais un
bah
petit,
là, il avait qu'à lire. Hein.
Ah non, pardon.
Si, si, ça marchait, moi je trouve.
Ou alors qu'ils ne devraient pas être parents, on sait pas trop. En tout cas, c'est déstabilisant de voir à quel point ils sont tous les deux dans le déni. Moi, je crois que cette série parle du déni, hein, clairement. Le déni. Il faut pas qu'ils...
Oui, un peu.
Ils passent leur temps à vouloir se séparer et ils font comme si tout allait s'arranger. Ils pensent vraiment réussir à vivre une vie de famille. Mais au final, Love déraille rapidement et Joe reprend ses mauvaises habitudes. Du coup, bah non, ça fonctionne pas du tout, du tout. J'ai trouvé cette saison vraiment très longue aussi. Franchement, 10 épisodes, c'était à rallonge. l'effet de nouveauté qu'on a eu un peu dans la saison 1 et puis dans, la, nouveau, dans la saison 2, tu
alors
vois.
Alors la 2 est un copier-coller de la 1.
Ouais, mais on va
sauf
dire...
Sauf que c'est à Los Angeles et plus à New York.
Ouais, mais il y a quand même quelques différences parce que Love, oui, t'apprends que Love est aussi taré que lui. Enfin, mais en gros, l'effet de surprise est complètement passé et du coup, moi je trouve que c'est presque malaisant en fait à regarder. Vraiment. Je me suis senti, il y a des moments où j'étais, oh là là, mais jusqu'où ils vont aller, c'est vraiment malaisant. Et ils arrivent à tout mettre, à tout mettre, et la fin de la saison où ils arrivent à tout mettre sur le dos de Love encore. Et du coup, lui, il part à Paris pour aller suivre sa nouvelle obsession. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, il s'agit de obsession, pas d'amour. Il n'aime aucune personne, ce type. Hein. C'est juste un gros obsédé. C'est des obsessions. C'est un obsessionnel. Et du coup, c'est un
on va faire tous les mots dans la... grammaticalement liés à obsession.
Non, mais il faut vraiment le dire, parce qu'il y a plein de gens qui sont... Vraiment, ils trouvent que le personnage de Joe est incroyable. Alors, ils le pardonnent, ils sont in love de lui et tout. Dans la vraie vie, il y a des gens qui regardent cette série et qui... Ils trouvent ce type incroyable, quoi. Mais
bah, c'est
le
flippant. Risque quand t'essayes de...
De rendre de faire... sympa.
Ouais, voilà, de rendre sympa, voire même de donner des explications à des pathologies mentales condamnables.
Oui, mais tu vois, par exemple, il faisait un peu de la même chose dans Dexter. Parce que Dexter était un tueur en série. Mais du coup, tu vois, il a l'éducation de Dexter, son père qui a essayé de canaliser son problème, et du coup, il tuait que des meurtriers. Enfin, c'était plus... Il y avait un peu le côté justicier, noble de la chose. Genre, c'est une mauvaise personne, mais pour racheter... Le fait qu'il soit de mauvaise espèce, il essaie de se racheter à la société en faisant ce qu'il fait, tu vois. Que là, dans You, il n'y a pas du tout ça. Vraiment pas du tout. Il a toujours l'impression de faire bien. Et en plus, on essaye de nous faire croire qu'il fait bien en nous montrant son passé tout le temps.
Mais c'est ça, ouais.
En nous montrant, mais regardez, s'il essaie de protéger Marianne et s'il tue son copain ou je sais pas trop quoi, son ex.
Il tue des gens.
Ouais, non, il tue des gens.
Ah, je connais vraiment pas le principe de You.
Bah, moi, je pensais que c'était juste un mec qui stalkait une meuf et il arrive à se mettre avec...
On peut raconter la saison 1 aujourd'hui, il y a prescription. En gros, il devient omnubilé par une fille. Donc, il la stalke dans tous les sens. Et puis, quand il se rend compte qu'elle a un copain, bah, il va vouloir, je sais plus exactement, peut-être qu'il le tue. Puis quand il se fait un peu griller par d'autres personnes parce qu'il est très bizarre, bah, il tue ces personnes. Enfin, en gros, il tue les gens qui les dérangent, qui le dérangent.
Et dans la saison 1, déjà, dans la saison 1, déjà, il faisait tout tomber sur le dos de Beck, qui était la fille dont il était obsédé. Et il l'a tué, et il faisait tout... en gros, après, il écrivait un livre sur l'histoire de Beck.
Oui.
Enfin, en la faisant passer par une poème psychopathe.
Ah oui, d'accord.
Et ouais, parce qu'en plus, oui,
moi,
quand...
Moi, juste un stalker.
Bah, le tout début était un peu juste un stalker, donc c'était plutôt bien. Enfin, plutôt bien, plutôt intéressant.
Ouais.
Mais, et puis oui, effectivement, dès que quelqu'un commence à lui échapper... Bah, il refuse que cette personne soit intéressée par d'autres personnes ou ne soit plus intéressée par lui. Mm-hmm. Donc bah, il les tue parce que, enfin, vraiment, c'est, enfin, son personnage est assez intéressant quand tu veux parler de maladie mentale, enfin, de trucs comme ça, de pervers narcissique ou de manipulateur, etc. Mm. Mais le truc, c'est que ça rend trop sympathique cette personne, alors que
il a rien de sympathique.
Ouais. Il tue des gens, il regrette jamais. Mm. Et il manipule tout le monde, enfin, c'est un menteur. Il peut pas être. Enfin, on est pris de. Le mot m'échappe et je le cherche depuis que j'ai commencé cette phrase. On est pris de. Enfin, on a envie qu'il s'en sorte, en fait.
Ah oui, mais après, ça, c'est aussi juste le fait que t'es dans une histoire, tu vois, un peu comme dans.
Oui,
ouais,
mais le truc qui. Le truc que j'aime.
Il fait aucune bonne action, jamais.
Oui, ouais. Mais le truc que j'aime.
Pardon.
Oui. Le truc que j'aime pas, c'est aussi que ça. Genre, lui, c'est un homme. C'est un psychopathe, hein, donc il est comme ça, il est obsessionnel et tout, il n'y a pas de problème. Et par contre, du coup, il rencontre une autre femme dans la saison 2 qui s'appelle Love, qui devient sa femme là et tout ça. Et en fait, Love a également tué des gens.
Elle est comme lui.
Elle D'accord. est comme lui, en fait. Pareil. Elle est vraiment... Non, je pense... Ouais, elle est comme lui, sauf que la série essaie de nous dire qu'elle est pire que lui. Parce que lui, autant il arrive à avoir un peu de retenue en société et tout ça. Et elle est... Elle laisse cours à ses pulsions, tu vois.
Oui, c'est ça.
Et ça, je trouve vraiment, ça montre un côté en mode l'homme arrive à se retenir, à réfléchir avant de tuer quelqu'un. Il a un plan. La femme, elle, est hystérique. Elle va taper sur quelqu'un direct. Elle n'arrive pas à se retenir. Et je trouve vraiment que cette série, elle diabolise les femmes, quoi. Mais vraiment, j'aime pas du tout ça. Et là encore, le fait que Joe s'en sorte sans rien et que ça soit encore Love qui se prenne tout sur la gueule, je me suis dit non mais c'est, enfin ils sont aussi pourris que l'un que l'autre. Hein. Mais en fait, ça devrait pas être comme ça. Ils devraient pas nous dire que Love est une tarée. Et... Enfin, je comprends pas pourquoi elle, on la voit comme un monstre alors que lui, on l'idéalise et on dit ah Joe là là là.
Parce que lui, on lui donne un gros background. Il a un background de ouf qui permet ça. Et dans les deux premières saisons, il y avait quelque chose qui... Il faisait une bonne action, c'est qu'en fait, il y avait toujours un enfant ou une enfant qui protégeait. Mmh. Et donc, en fait, tu disais...
Mais
bon,
là, il protège pas son fils.
Si, ah, ben, oui, son fils. C'est la seule bonne action qu'il fait
mais
dans la série.
Mais il fout son fils lui-même dans la merde, en fait. Donc, du coup, alors que...
Ouais, mais il voulait pas d'enfant. Et en plus, au début de la série, ouais. Au début de la saison, on nous dit encore un truc pire, c'est qu'il voulait une fille. Il voulait pas de garçon.
Oui, mais deux épisodes avant de se dire bon bah j'ai un garçon, c'est bien aussi.
Non mais je pense que c'est resté parce qu'en fait il voulait une fille parce qu'il se disait cette fille je vais devoir la protéger des gens comme moi, des obsédés, des gens obsessionnels, tu vois.
C'est une femme. D'autres gens.
Cool. C'est une femme, je vais devoir la protéger et tout ça. Sauf que comme il a un fils, il a peur que son fils devienne comme lui. Du coup, ça lui renvoie son image.
Mais
c'est ça
plus,
que
c'est
dit
absurde,
la série.
Si de toute façon sa mère c'est une psychopathe alors que c'est une femme. Donc ça marche pas.
Oui, mais c'est il est tellement narcissique qu'il pense qu'à lui. Il se dit si c'était si j'avais une fille, je la protégerais parce que les femmes doivent être protégées. C'est la série te dit que ça. Et à chaque fois qu'il tue, c'est en mode je protège cette femme ou des trucs comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Et par contre, comme c'est un garçon qu'il a, il a trop peur que Henry devienne comme lui. C'est pas il a pas peur que Henry se fasse maltraiter. Hein. Il a peur qu'il devienne juste comme lui.
Et tu parlais de Dexter. J'ai jamais regardé Dexter, mais j'imagine que. En plus, il est en recherche de rédemption ou
oui,
pas
c'est
plusieurs.
Ça.
Ouais. Alors que là, jamais quoi. Jamais le gars va voir des psychologues ou un proche au courant essaie de le soigner.
Mais non, parce qu'il avoue pas qu'il est malade.
Ouais, voilà. Mais le truc, voilà, il y a jamais.
Alors que Dexter, il y a vraiment. Je suis un psychopathe. J'ai envie de tuer des gens autant que je rende service à la société.
Ouais,
en
ça,
plus,
ouais.
Oui, déjà, c'est on va dire entre guillemets moins pire Dexter, ce qu'il fait quoi.
Bah surtout que Dexter, normalement, il intervient que quand, c'est un peu facile à dire, mais quand la justice, elle a pas fait son job, quoi.
Mm. Oui.
C'est vraiment facile à dire. Et
mais après, c'est ça, c'est au niveau de la morale. C'est, dans Dexter, ils ont essayé de faire une morale. Tu vois, tu peux être une mauvaise personne et essayer de te racheter à la société. Et là, dans You, c'est t'es une mauvaise personne. Tu peux échapper à la justice et continuer à être une mauvaise personne tant que personne t'attrape. C'est ça qu'il a dit. Mm. Sauf qu'au bout d'un moment, enfin. Une saison 3, ok, hein, parce qu'elle a déjà été annoncée. Il y aura une saison 3 qui se passera...
4 alors.
Une saison 4 qui se passera à Paris. Parce que du coup, l'héroïne, enfin sa nouvelle obsession part à Paris, donc il a su à Paris. Mm-hmm. Mais il faut qu'au bout d'un moment, ça pourra pas aller jusqu'à... Il va pas en trouver une à chaque saison. Être obsédé, la tuer, recommencer, enfin... Ça...
Toi, t'as pas envie,
pas
mais
sens,
si ça marche.
Ça n'a pas de sens. Bah, moi, je veux... Mais même, je veux pas qu'il y ait... Enfin, je dis pas que je veux pas qu'il y ait des gens qui... Enfin, je trouve ça ouf que des ados puissent regarder ça et s'identifier à ce mec en se disant oh, « c'est trop bien ». En fait, ça fait croire que être obsessionnel ou avoir des comportements comme ça, c'est normaux, quoi.
C'est presque que la série rend ses actes nobles.
Ouais. Mmh.
Par amour, tu vois.
Donc... Ah oui, c'est ça. Sa voix off, en gros, qui est ça, dans sa tête, dit ça. Il fait « par amour pour Love, par amour pour Henry, mon fils ». Non, non, non.
Ça donne pas envie.
Parce que même à la fin, il fait un geste, il dépose son fils chez un couple d'amis à lui, qui vont s'en occuper. Et il y a une partie de la lettre où, en gros, il explique pourquoi il met Henri chez eux. Et après, il y a une autre lettre où il y a marqué à donner à Henri quand il sera adulte, tu vois. Et lui, il dit, cette partie de la lettre restera entre nous. Tu vois, genre, tu sais pas ce qu'il a écrit dedans, mais ça se trouve... Il va lui dire « J'ai tué ta mère
!» Mais même, là, je pense à ça, là, Love et Joe arrivent dans une banlieue riche, et toute la série essaie de nous faire, de nous expliquer que les mauvaises personnes, c'est les gens qui habitent tous ces gens. Parce qu'en fait, et c'est vrai que c'est pas une vie hyper chouette, tout le monde se ment. Ça fait très... Joe et Love arrivent à Desperate Housewives, où t'as plein de mystères, tout le monde se ment, tout le monde se déteste, mais c'est bourré d'hypocrisie, donc tout le monde se sourit face à face. Et donc la série essaie de faire croire que, en fait, Joe et Love sont...
au-dessus de tout ça.
Sont meilleurs, n'arrivent pas à se mouler là-dedans, parce que eux ne sont pas hypocrites. Alors que c'est les deux qui mentent le plus au monde. Ouais. Mais enfin, je trouve ça en presque, parce qu'effectivement, là, il y a un vrai problème si d'identification. Tu fais, mais j'ai pas non plus envie d'une vie en banlieue avec mon chien, mes enfants et ma grosse voiture, enfin ma voiture familiale. Ça peut être un choix de vie, mais du coup, en t'identifiant à des meurtriers, des meurtrières, c'est pas non plus. C'est pas ce qu'il faut faire.
Et puis ça va même plus loin que ça. Il y a un épisode qui m'a, moi, ça m'a choqué. Parce qu'on ne devrait pas en arriver jusque-là, mais en gros, il y a un mec qui est anti-vax et ses enfants tombent malades. Ils ont la rougeole.
Henri attrape la rougeole, ouais.
Ouais, donc ses filles, avaient la rougeole et leur filaient à leur bébé. Donc pour un bébé, la rougeole, super grave, tu vois. Et tout ça parce que ce gars n'avait pas vacciné ses filles parce qu'il partait du principe que l'immunité, ça devait se faire tout seul, blablabla. En anti-vax, quoi, comme on a pour le Covid, mais pour d'autres maladies.
Très malsain en plus, c'est que la série parle du Covid. La série se passe vraiment après la période du Covid. Il n'y a plus l'épidémie. Mmh. Donc en plus, le discours anti-vax est volontairement pointé du doigt, quoi.
Ouais. Ouais, donc voilà, il y a ce gros discours anti-vax. Donc nous, on est horrifiés. Enfin, moi, le gars, il parle, tu vois, il le dit vraiment ce qu'il pense et tout ça. Donc toi, t'es horrifié devant sa télé. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui donne un énorme coup
de rouleau à pâtisserie
et elle le tue sur le coup. Sauf que ça peut ne pas poser de problème peut-être à des gens, mais moi, ça me pose un problème parce que est-ce que c'est la réponse, tu vois? est-ce que c'est bien de dire la réponse à ces gens-là qui mettent qu'on met la vie de ton enfant en danger, c'est de les tuer.
Non, mais après, peut-être que la série, elle est juste pas faite là pour donner de morale. Elle dit juste, elle a tué ce mec.
Je trouve ça trop facile.
Enfin, moi, j'accepte pas que des œuvres se cachent en disant, on parle pas de ça, nous. Alors que quand tu parles de choses, t'as forcément des responsabilités.
Surtout que là, ils y vont à fond sur le truc anti-vax. Hein. Le mec, il vient s'excuser.
Oui, c'est vraiment pendant un demi-épisode, tout un épisode est centré là-dessus. Ouais.
Il dit, je suis désolé, mais moi, je pense que mes enfants, ils n'ont pas besoin d'être vaccinés, ils se font leur propre immunité. D'ailleurs, tu devrais me dire merci. Il y a un moment, il dit ça, tu devrais me dire merci parce que ton fils, maintenant, il est plus fort grâce à moi. Enfin, tu vois, ils vont loin dans ce qu'ils veulent dire. Et je trouve que la réponse, c'est vraiment pas adapté. Hein. Parce que sinon, c'est une guerre civile, en fait.
La série en fait volontairement une personne moralement condamnable. C'est pas un personnage parmi tant d'autres qui a cette opinion, parce que il y a une partie de la société qui a cette opinion. Non, c'est vraiment le mec est une mauvaise personne, un antagoniste de cet épisode.
Sauf que chaque personne qui tue, c'est ça. Alors la première, c'est parce que... Joe a commencé à tourner autour, donc elle l'a tué parce qu'il avait une liaison avec son mari. L'autre, après, c'est l'antivax qui se prend un coup aussi parce que il est antivax, faut le tuer. Le couple de Barjo, là, il se retrouve dans la cage aussi.
Ouais, mais là, c'est vraiment un moment où ça part en vrille.
Ouais, mais les deux apprennent que
Love a tué les deux personnes d'avant. Donc là, il n'y a plus trop de choix.
Ouais.
Et
si tu veux,
voilà.
Ça continue.
Et en gros, c'est ça. On essaie de te faire dire, en fait, tous ces gens sont morts, mais ce n'étaient pas des bonnes personnes de toute façon. Donc,
je comprends.
Bon, on a assez parlé de You.
Non.
C'était... Ouais, non, c'était poussif. En plus, c'était...
C'était très long.
Je dirais juste un seul truc pour finir. En plus, c'est bourré de facilité scénaristique où... Les téléphones sont... Ça stalke les téléphones et ils sont jamais verrouillés. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Ouais. Quand ça arrange...
Mais si,
Ouais, mais quand Joe a besoin de déverrouiller un téléphone, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas besoin.
Si, mais il met devant la tête.
Je te jure que ça... Des fois, il fouille des téléphones et il n'y a pas besoin de verrouiller. Ça se déverrouille tout seul. Là-dessus, c'est un peu facilos.
Il gagne du temps.
Et donc, j'avais pas non plus envie de regarder, mais quand j'ai vu que ça se passait à Paris, j'ai dit... allez, laissons une chance à la saison.
Join Paris.
Mais en tout cas, ils le vendent en mode... Ça ne sera pas tout à Paris. Hein. Une partie. La moitié se passera à Paris. Et ils le vendent en mode... Enfin, moi, j'ai lu un article qui disait non, mais les scénaristes sont déjà en train d'écrire. Ils ont trouvé des supers idées. Genre en mode, ça va... Tu vois, la nouveauté, il va avoir plein de retournements de situation et tout. Donc, moi, j'attends de voir quand même.
Il va se faire buter dès le début.
Et ça va s'appeler.
Flash forward, et c'est Henri, et c'est devenu un psychopathe.
Yes.
Et ouais.
Ouais, mais ils savent que les psychopathes, c'est pas dans tes gènes, enfin, dernière nouvelle.
franchement, vu ce que vous avez dit de la série, pour l'instant, je serais assez peu surpris qu'il tombe là-dedans.
Et après, vu les horreurs que cet enfant a vues, je pense qu'il va avoir des troubles. On a fini de parler de You. Mathilde, tu vas terminer avec une série qui s'appelle Fleabag.
Oui,
je ne connais pas.
La saison 1 que j'ai vue, qui fait 6 épisodes de 25 minutes, qui est sortie en 2016, donc ça date. Et c'était sur Prime Video. Mise en abîme hilarante et intense, Fleabag nous fait vibrer à travers l'esprit d'une femme colérique, pince sans rire.
C'est ton résumé ?
Oui, c'est une expression qu'elle utilise très souvent.
Pince, criblée de chagrin, de soucis et sexuellement instable, qui se jette à corps perdu dans la vie moderne londonienne.
C'est quoi sexuellement instable ?
Phoebe Waller-Bridge... On va en parler après.
C'est vrai.
Phoebe Waller-Bridge réalise et joue le rôle principal de Fleabag. C'est quoi sexuellement instable ? Bah en fait dans la série elle couche à peu près avec tout le monde.
Du coup c'est méga stable, elle couche avec tout le monde.
Bah ouais, enfin je sais pas, je trouve que le résumé est déjà à charge. Enfin est-ce que coucher avec tout le monde c'est pas bien ? C'est sexuellement libre ou sexuellement frivole, mais instable, ça veut un peu dire que...
Non, là, ouais, le résumé est pourri.
Ça reste un résumé.
Enfin bon, moi j'avais beaucoup entendu parler de cette série qui est même dite comme une des meilleures séries féministes qui existent. Et bah, au final, je comprends pourquoi, parce qu'elle est vraiment très bien. Phoebe Waller-Bridge est incroyable dans ce rôle. Cette série fait rire, elle met souvent mal à l'aise. Et elle est vraiment très triste aussi. On voit notre héroïne se débattre avec toutes ses émotions et essayer de se remettre d'événements traumatisants. Et j'ai commencé la saison 2, mais je ne l'ai pas encore finie. Mais ça commençait bien. Il y avait un épisode qui se passait dans une secte. Enfin non, je vous en avais déjà parlé, je crois.
D'une secte ?
Non, non, c'était un truc où, en gros, elle allait dans un truc féministe et en fait, on lui demandait de laver le sol. Mais si, je vous avais dit, c'était un truc féministe et en fait, on arrivait, on lui disait, non, mais en fait, faut pas que vous parliez et c'est par le ménage qu'on devient une vraie femme ou je sais pas quoi. Et à côté de ça, il y avait des mecs à côté qui faisaient un séminaire sur comment être
retrouver sa masculinité.
Ouais, non, comment être un gentilhomme. Ah. Genre, par exemple, c'était... il lui montrait une poupée gonflable de femme et il lui disait « Voici Germaine. Germaine vient d'avoir une promotion alors qu'elle est une des employées les plus jeunes... les plus jeunes.
Germaine, la plus jeune ?
Non, mais Juliette, Elisabeth, j'en sais rien. Et la plus jeune...
C'est quoi ?
Non, mais j'en sais rien, trouvez-lui un autre nom.
Nathanaël.
C'est un nom de garçon. Là, il faut que ce soit une femme.
Nadia.
Ok, donc du coup, Nadia, 23 ans, vient d'avoir la promotion de chef de service. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire ? Et du coup, bah, là, tous les mecs disent des trucs genre...
T'es passé sous le bureau.
Ouais, voilà. Petite pute.
T'as couché avec combien de mecs ?
Plein de choses comme ça. Qui lui disent sale intello, parce que bah, j'en sais rien. Et en gros, après... Ils lui disent « Et qu'est-ce que vous devriez dire à Nathalie pour la féliciter ?» Et là, tout le monde qui est « Félicitations, Nathalie !»
Je crois qu'elle s'appelait Nadia.
T'as dit son vrai nom, là.
C'est plus... Mais voilà, c'était incroyable. Et du coup, bah, Fleabag, c'est plein de moments comme ça. C'est triste, joyeux, et c'est un mix de tout ça. Mais c'est trop bien. Enfin, ça... J'ai plein d'épisodes, plein de petits passages de la série qui reviennent dans ma tête et je me dis, oh, c'est incroyable. Donc je vous conseille de regarder. Vraiment.
Ça a l'air pas mal. C'est une série BBC, je vois là.
Ouais. Il y a deux saisons et il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc,
c'est britannique. J'aime bien les séries britanniques.
Ça se regarde vraiment très vite.
Je savais que ce nom me disait quelque chose, la Phoebe Waller-Bridge.
Elle fait plein de trucs.
J'étais voir un peu son Wikipédia. Et en fait, elle est. Co-scénariste du dernier James Bond.
Ah.
Et elle a fait beaucoup parler d'elle à ce moment-là parce que apparemment elle a vraiment été appelée dans un but de reféminiser le scénario en ramenant des personnages féminins forts en enlevant un peu de personnages féminins objets ou objets sexuels même. Enfin voilà. Et elle a le dernier James Bond est pas mal là-dessus justement. Mais les personnages féminins sont plutôt cool.
Je crois que cette série-là, Fleabag, a été, elle a eu des prix. Enfin, tu vois, elle a été vraiment accueillie, très bien accueillie par la critique et elle a eu beaucoup de prix et tout ça.
Bah, c'est cool, ça me donne envie, je regarderai. On a terminé les séries. On va passer maintenant au film. Mathilde, tu vas garder un peu la parole.
Noël ne serait pas Noël sans les films de Noël.
Exactement. Et c'est vrai qu'il y en a une sacrée...
Non, il y en a
floppy.
Trois.
Trois.
Trois plus une romance.
Anonymat aussi.
Ça va.
Non, c'est une rom-com.
Eh ben, on va faire ces trois films de Noël ensemble. Enfin, ensemble. Les uns à la suite des autres.
D'accord, on commence par le plus nul et on finit par le meilleur.
Allez.
Bonne idée.
On commence par La Princesse de Chicago en quête de l'étoile, qui est sorti le 18 novembre 2021. Un film qui fait 1h46, disponible sur Netflix. Un film réalisé par Mike Hall avec Vanessa Hudgens, Sam Palladio et Nick Sagar. Quand une sainte relique de Noël est volée, la reine Margaret et la princesse Tessie se tournent vers l'audacieuse Fiona, leur sosie, et son charmant ex pour la récupérer.
J'ai vraiment l'impression que ça se transforme en Fast and Furious, qu'au départ c'est une romance un peu mignonne et que ça finit en film de braquage et tout.
Alors
ça se passe à quelle époque ?
Ça se passe maintenant. C'est moderne.
C'est qui la reine Margaret ?
Est-ce que en fait, c'est ça pas se dans passe le Netflix...
film de Noël cinématique univers.
C'est ça.
C'est vraiment
en fait, il y a un Netflix fait un univers comme le MCU, mais avec ses films de Noël.
Et tu l'affirmes parce que dans le mariage de je sais plus laquelle des princesses...
Non, je l'affirme
de...
parce que Netflix l'a affirmé. Netflix a fait un post en vous disant voilà comment fonctionne ce truc.
Mais parce qu'il y a carrément eu dans le Princesse de Chicago 2, au mariage, t'as une princesse d'un autre film de Noël de...
Tout à fait.
Voilà.
Une autre princesse d'un autre film de Noël.
Je me rappelle que Mathilde avait fait « Oh !»
« Oh, regarde, ils sont là !» Voilà. C'est moi. Donc, voilà. Les premiers films s'intéressaient à la vie de la princesse, de la reine et de la princesse Margaret et Stacy, qui sont déjà sosies, et elles ont... Ou alors elles ont un lien de parenté, j'en sais rien. Et elles ont un autre sosie, Fiona. Il y a beaucoup de sosies, qui est la cousine de Margaret, il me semble. En tout cas...
Peut-être qu'elle a une jumelle secrète, la Margaret.
J'ai regardé ce film en plusieurs fois, je crois deux, peut-être trois. Enfin, j'ai fait des trucs et je coupais quand j'arrêtais et je reprenais. C'était vraiment nul. C'était nul. En fait, il voulait Fiona, en fait, dans le deuxième film, c'était une méchante. Et bah là, il voulait genre faire la rédemption de cette méchante. Donc, ils l'ont fait passer pour une gentille. Genre, elle essaie de sauver Noël en récupérant la relique de Noël pour la mettre sur l'arbre de Noël.
Moi, je trouve ça bien.
Du coup, Fiona est l'héroïne principale. Et elle a une histoire d'amour avec son ex, son charmant ex. Voilà. Mm-hmm. Et du coup, le but, c'est qu'ils finissent tous les deux. Et je crois qu'ils finissent tous les deux. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé entre le début et la fin. Je me rappelle plus.
En fait, c'est endormi.
Je crois qu'il y a un braquage. Je crois que Vanessa Hudgens, elle est obligée de faire des figures étranges. Elle joue trois rôles dans ce film. Elle doit être bien payée.
Alors, vouloir s'en cacher et diviser par trois.
Parce que
sinon, du coup, l'agent Smith, il est méga bien payé.
Il est
bah,
l'humanité. Donc, du coup, méga
par
caché.
Contre, seul bon point, c'est que je trouve que visuellement, ça s'est amélioré quand on voit des sosies. Je lui avais montré une scène où il y en a deux qui dansaient toutes les deux ensemble.
Fait.
Et c'était vachement bien fait.
Ouais, vraiment.
Okay. Chapeau. Chapeau pour...
Je n'arrivais pas à trouver le
comment
trucage.
C'était fait. Ouais.
C'est
franchement,
bon
voilà. Sinon, next. Next. Alors, le film suivant. C'était toujours à moi. J'avais oublié. Le film suivant, c'est Que souffle la romance, qui est sorti le 2 décembre. 2021. Il fait 1h29. Il est également disponible sur Netflix. C'est une nouveauté du mois de décembre. Réalisé par Michael Mayer avec Michael Uri et je ne sais
Flemon.
Pas dire ce nom.
Flemon
Chambers. Ouh, c'est beau. Alors, ce film nous parle de Nick.
Et de Peter.
De Nick qui est las des remarques de sa famille au sujet de son célibat.
Bah, c'était Peter, en fait.
Oh, juste, c'était Peter. Peter est las des remarques de sa famille au sujet de son célibat. Il décide de convaincre son meilleur ami Nick de l'accompagner pour les vacances de Noël et de faire croire qu'ils sont en couple. Mais la mère de Peter a d'autres projets pour sa progéniture et lui arrange un rendez-vous avec son séduisant coach, James. Mais rien ne se passe comme prévu.
Résumé de l'enfer. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit ?
Non.
Okay. Et vraiment, au résumé, j'ai l'impression que c'est plus nul que le film d'avant.
Non. Alors, déjà, premièrement, il y a un truc à dire, et il faut quand même le reconnaître, c'est que c'est le premier film de Noël de Netflix qui parle d'un couple homosexuel.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est le bon point. Par contre, le problème, c'est que l'histoire est banale et en fait, je sais pas s'il faut traiter les histoires d'amour. Enfin, je sais pas si les couples gays marchent comme les couples hétéros ou pas, tu vois. S'ils ont envie des mêmes choses, j'en sais rien, en fait. Et là, en fait, ils ont pris une histoire basique et ils l'ont copié-collé. Et je sais pas si ça fonctionne dans la vraie vie.
Ouais, Nicole est devenue Nick, quoi.
Ouais, c'est ça.
Dans le scénario.
Bon, en tout cas,
pourquoi ça fonctionnerait pas ? Je veux dire, c'est des gens, enfin, il y a pas de raison que ça.
Oui.
Non, c'est pas en fait. Enfin, c'est juste. C'est
moi,
ça que tu veux
rien,
dire
en fait.
C'est juste que tu sais pas.
Moi, j'en sais rien. Je sais rien.
Oui, mais tu veux qu'il se passe quoi ? Qu'il...
Bah, peut-être que par exemple, là, tu vois, par exemple, Peter, lui, il travaille à New York et puis il en a marre d'être à New York, il veut se rapprocher de sa famille. Et peut-être que Peter, ça lui plairait de rester à New York. Peut-être que lui, ça lui plaît de pas aller vivre dans un coin paumé en plein milieu de nulle part où il neige tout le temps, où il y a trois magasins. Et...
Mais le fait qu'il soit homosexuel n'a aucun rapport.
Ça... Hein ? Non, mais je te dis que... Enfin, on sait pas, en fait. Enfin, là, en gros, ils font comme si Nick, c'était Fiona. Elle habite à New York, elle n'arrive pas à trouver l'amour, donc elle veut rentrer chez papa et maman.
Mm-hmm.
Ouais. Mais en fait, ce qu'ils te disent en plus pendant tout le film, c'est que Nick, il était le seul homosexuel de toute sa ville.
C'est pas beaucoup.
Donc, enfin, non mais... Et attends, non, là, il y en a un deuxième, il y en a un qui vient d'arriver, le coach sportif
James.
Séduisant, James, c'est le... Maintenant, ils sont deux. Donc forcément, la mère, elle veut les caser ensemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin... C'est vrai, je trouve ça tiré par les cheveux. Et en plus, sa mère... Attends, la mère lui présente le seul autre homosexuel de la ville.
Ouais.
Et ils s'entendent bien.
Ben, ils ont le droit de bien s'entendre. C'est délicat de... Je sais pas.
Il y a quand même combien de chances que
c'est
ça arrive ?
C'est cliché.
Il y a combien de chances que ça arrive ?
Bah, il y en a quand même beaucoup. Globalement, les gens sont sympas. Non ?
Je trouve que t'es trop positif, là. Moi, je trouve que c'est cliché et que c'est peut-être... Bon, enfin, l'idée est bien. Le film, c'est un film de Noël. Mais
bah oui,
est-ce
voilà.
que ça fonctionne
plus,
vraiment ? Je sais pas.
Mais en plus, c'est un film de Noël. Déjà,
c'est surtout
de base,
un film
c'est
de
pas
Noël.
Réaliste.
Oui,
alors, en plus, c'est un film de Noël. Donc...
C'est surtout un film de Noël, ouais.
Je pense que tu cherches à mettre trop de trucs dans un film de Noël. Ou...
Bah, désolé, j'en attendais plus. J'en attendais plus que le film de Noël où, du coup, il va faire croire à ses parents qu'il est en couple avec son meilleur ami. Sa mère lui fait rencontrer quelqu'un, il a plein de rancards avec, mais finalement, il se rend compte qu'il aime son meilleur ami.
C'est beau.
C'est beau.
Ben non, mais le résumé a l'air sirupeux, c'est sirupeux. Et bah...
Sirupeux.
Oui, trop sucré.
D'accord, bon bah voilà, c'était le film de Noël. Je sais pas. Bah...
Attends, il en reste un.
Il en reste un.
Si personne, si tout le monde trouve ça bien, bah c'est bien.
Moi,
t'es la seule à l'avoir vu.
Moi, je... c'est un film de Noël, donc... Les scénaristes font pas l'effort de faire les choses bien.
Chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, c'est la... Oui, mais c'est un film de Noël.
Mais c'est ça, mais c'est un problème. C'est pour ça que j'aime pas trop les films de Noël, c'est que c'est feignant et gnougnon.
Même Love Actually.
Bah, on passe à Love Hard, qui est sorti le 5 novembre 2021, 1h45, dispo sur Netflix, réalisé par Hernán Jiménezer. Je sais pas comment ça se dit. Avec Nina Dovray,
Jiménez.
Jimmy Oyang et Darren
c'est...
Barnett.
À mon avis, c'est hispanique et c'est Jiménez.
Désolée. Une jeune femme vivant à Los Angeles tombe amoureuse d'un charmant jeune homme rencontré sur une application. Elle
Tinder.
Décide de lui faire une surprise pour Noël et de lui rendre visite sur la côte. Sur la côte est des États-Unis, où il réside, mais se rend compte à son arrivée en ville qu'elle a été piégée et qu'elle communique depuis le début avec un usurpateur. Lorsqu'elle découvre que le véritable objet de son affection vit dans la même ville, celui qui a créé un faux compte sur l'application pour la séduire promet de tout faire pour leur organiser une rencontre. Si elle accepte de faire semblant d'être sa petite amie durant les fêtes.
Mais à la fin, elle va se rendre compte qu'en fait, celui qui a utilisé la photo, c'était son vrai amour et pas l'autre. Parce que
oui,
c'était
mais
vu sur le physique.
C'est pas amené comme ça.
Ok.
Mais du coup, ce résumé est très long. Et au final, il raconte toute l'histoire. Donc c'est très bien.
Bah oui, c'est ce que je me disais là.
Et oui. De tous les films romantiques de Noël que j'ai vus, c'est celui qui m'a le plus plu. Le scénario est simple, mais il fonctionne bien. Et j'étais contente de revoir Nina Dovrette, qui est Elena dans Vampire Diaries. Et son duo avec Jimmy Oyang, qui est Jing Yang. Ici, il joue dans Silicon Valley.
Jing Yong ou un truc comme ça.
Ouais, dans Silicon Valley. Et étonnant, mais fonctionne super bien. C'est un bon film de Noël. de Nono Noël. C'était comme ça que je devais le faire. Nono Noël.
C'est un pari.
Et si vous voulez l'histoire, et bah, oui, en gros, elle arrive là-bas et elle découvre que bah, c'est pas lui, bien évidemment. Et elle découvre que celui qui était en photo, il est il
elle découvre
pas loin.
Le poteau rose.
Ouais, il est pas loin. Du coup, elle a un rendez-vous avec lui. Et en fait, elle se rend surtout compte que bah, lui, genre, il veut faire de l'escalade, il veut faire plein de trucs et tout ça. Et qu'elle, elle fait pas tout ça, elle.
C'est bien l'escalade.
Bah oui, mais elle a peur du vide déjà, alors il y a l'air.
Elle préfère...
C'est la raison principale des gens qui vont faire l'escalade.
Du coup, en fait, elle se rend compte que, en fait, au départ, elle parlait avec Joe et que Joe, il s'est, certes, c'était pas sa photo, mais c'était vraiment lui, quoi. Et du coup, voilà, ils finissent ensemble.
Ils finissent ensemble parce que c'était vraiment lui.
Mais non, parce qu'ils ouais, ont plein de... ils ont plein de...
D'atomes crochus.
Ouais, ils ont des trucs qui leur plaisent à tous les deux,
c'est
tu vois.
Dans les vieilles
ils font pas semblant. On passe à un autre film de Noël ?
Non.
Bon,
pas vraiment.
Mais t'as fini les films de Noël ?
Ah oui, mais toi, c'est pas un film de Noël, les Matrix ?
Bah yes. Non, voyons.
C'était vachement préparé.
Réussite.
Oui.
Moi, j'avais pas compris que c'était ça le but.
Oui, donc j'ai regardé la trilogie Matrix, qui était sortie entre 1999 et 2003. J'ai un doute maintenant sur le 2003.
Ça paraît court, mais...
Non, je crois que c'est 2003. Les films durent en moyenne 2h10 et les trois sont dispo sur Netflix. Réalisé par Lana et Lily Wachowski, c'est avec Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Hugo Weaving et Laurence Fishburne. Alors, je vais vous lire le résumé Netflix. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
Prépare ton doigt.
J'ai déjà ri tout à l'heure.
Prépare ton doigt.
Ah oui, oui, c'est vrai. Un informaticien... La vie tranquille le jour se transforme en pirate du cyberespace et en libérateur élu la nuit. Je soupçonne Netflix de ne jamais avoir regardé ces films. Vraiment.
Ou que ça soit des algos qui génèrent en allant piocher des mots dans des
résumés. Ouais, mais bah, jamais on dit cyberespace. Hein. On dit la matrice éventuellement, mais...
Ouais. Cyberespace, ça fait plus... c'est bah, une conférence dans les années 2010.
Ah, moi, j'avais l'impression qu'en gros... En gros, le gars, il arrive en Jack Sparrow dans un cybercafé, quoi.
Ouais, c'est ça.
Un pirate du cyberespace.
Ah oui, en Jack Sparrow.
Mais plus sérieusement, je vais pas m'étendre longtemps parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Bah, c'est merveilleux, Matrix. Et vraiment, avec le recul, plus le temps passe, plus je crois que c'est ce que le 21e siècle a fait de meilleur au cinéma. Vraiment. En tout cas, c'est ce que je préfère.
C'est pas ce qu'il disait avec Rocky aussi.
Parce que là, t'as précisé au cinéma. Siècle. Et dans ton résumé, t'avais pas précisé, enfin dans ton texte, t'avais pas précisé au cinéma. Et du coup, juste t'avais dit, c'est la meilleure chose du 21e siècle.
Non, au cinéma, au cinéma. J'aime particulièrement les scènes de combat de Matrix 2, mais elles sont trop ouf. Je les ai encore vues, elles sont vraiment dingos. Et je vais juste faire un petit appel. Je lance une bouteille à la mer. Ne condamnez pas, s'il vous plaît, les deuxième et troisième films. Vraiment, ça regorge de trucs tellement qui valent le coup. Soyez curieux et curieuses et vous découvrirez que, en fait, ces films sont super riches et que les messages véhiculés sont ultra puissants et que on est forcément touché par quelque chose. Quand on s'y attarde un peu. Pour en avoir savoir plus, vous pouvez aller lire ma rétrospective sur le blog et puis l'article sur Matrix 4 arrive bientôt.
Bientôt. Ok.
T'as fait très rapide pour trois films.
Bah oui, parce qu'on les connaît, les Matrix, ouais. Puis j'ai fait une rétrospective, ça serait une redite.
C'est vrai.
On peut passer à la suite, si vous voulez, Mathilde.
Alors, on va passer
un autre film.
Anonymat. C'est sorti le 10 décembre 2021, ça dure 1h41 sur Netflix. Et c'est un film mexicain. Et c'est une nouveauté. Fait par Maria Torres, avec Annie Cabello, Ralph, c'est juste Ralph. Et Stéphie Meirelles.
Je pense que c'est Meirelles.
Née d'un SMS envoyé par erreur, l'amitié virtuelle entre Val et Alex tourne à la romance, mais tous deux ignorent qu'ils se sont déjà rencontrés en chair et en os. Alors, c'est mignon.
C'est encore une romance.
Oui, c'est une romance toute mignonne.
C'est un film de Noël ?
Non, c'est pas un film de Noël. C'est une romance toute mignonne et bien faite. Les deux protagonistes sont très mignons et leurs histoires virtuelles et dans la vraie vie fonctionnent très bien. J'adore ce genre de film. C'est des films pour ados, en fait, des petites rom-coms et c'est trop mignon et continuez à en faire. Okay. J'ai rien d'autre à dire. Moi, j'ai,
c'est
moi,
un
ça
ordre.
M'a plu,
continuez, continuez.
Bah, faites-en des biens, hein, pas des pourris. Celle-là bah, oui. était bien. Elle était bien parce que du coup, tu voyais deux ados qui font. Enfin, ils papotaient par texto, mais ils savaient pas qu'ils se connaissaient aussi dans la vraie vie. Mais en fait, dans la vraie vie, ils s'aiment pas trop. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte qu'ils se mettent à s'apprécier. Et en fait, ils tombent amoureux dans la vraie vie. Mais en fait, ils continuent à se parler par texto et ils savent pas. Et du coup, ils sont en mode oui, mais si la personne à qui je parle par SMS est mieux que la personne que je vois en vrai, comment je vais faire? Et en fait, bah, c'est la même personne, les gars. Donc c'est trop mignon, chou, et ça se finit bien.
Ben voilà. Okay. Ben non, mais on n'a pas visiblement grand chose de plus à dire.
Non.
Mais si ça t'a plu, c'est bien.
C'est le principal.
Et c'est bien de voir des films mexicains. Enfin, je veux dire, voilà. Ça change des romances. Bref. Pour terminer, Damien, tu as regardé un film sur Disney+.
Oui, qui s'appelle Hidden Figures. Et alors, Mathilde connaît le titre en français, c'est quoi?
La figure de l'ombre. Les figures de l'ombre.
Oui.
Okay.
Ça avait fait beaucoup parler quand il est sorti, je me rappelle.
J'imagine, mais moi, j'en avais pas entendu du tout parler. Oh, bah, je savais pas que ça existait.
T'avais un casque sur tes oreilles?
Non, mais c'était en 2016.
Oh là là.
Du coup, c'est sorti.
Tu faisais quoi en 2016?
Je sais pas, mais je regardais pas ça.
C'était en 2016.
Il est prêt, s'il m'a dit une blague nulle.
J'ai rien
en
fait.
En plus, je fais que ça tout le temps, alors ça va être difficilement...
Est-ce que je peux parler de ce film?
Bah oui, bien sûr.
Ok. Alors, il est sorti en 2016, il dure 2h07.
200h07.
Ça serait vraiment
c'est
très
beaucoup.
Très long. Il est dispo actuellement sur Disney+.
Oh, trop bien, on pourra le voir.
La plateforme de VOD de Disney. De VOD.
SVOD.
La plateforme de SVOD de Disney. Je donne beaucoup de détails. C'est coécrit et coproduit et réalisé par Théodore Melfi. Mais bizarrement, du coup, c'est juste écrit que c'était coécrit et coproduit. Donc, j'ai pas les
réalisateur.
Autres. Bah non, enfin, c'est lui, le réalisateur. Mais voilà.
Ok.
Alors, le résumé. C'est le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn, maintenu dans l'ombre de leurs collègues masculins et dans un pays, et dans celle d'un pays en proie à de profondes inégalités, pardon. Leurs histoires sont restées longtemps méconnues et est enfin portée à l'écran. Parce que oui, du coup, ça prend place dans les années 60, quand il y avait encore une ségrégation aux États-Unis, quand il y avait des toilettes, pour les femmes de couleur, quand il y avait
dans les bus,
ils devaient s'asseoir au fond, ouais, voilà, tout ce genre de bonne ambiance. Quand dans les bibliothèques, il y avait un fond pour les personnes de couleur et un fond pour les...
Horrible.
Ouais. Voilà. Alors, j'ai noté que je n'avais pas choisi le film, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas que ça allait être bien, j'avais aucune idée de quoi ça parlait. Je savais que avant que les ordinateurs prennent la place de personnes qui calculent à la main, la NASA, c'était des femmes qui faisaient les calculs, mais je savais pas que c'était des personnes de couleur, et encore moins qu'il y en avait autant, parce que là, vraiment, elles sont vraiment beaucoup. Et donc, le film, c'est une super découverte, c'est à la fois antisexiste et antiraciste, et ça tombe pas non plus dans un... moralisateur, c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, ça c'est jamais amené de manière lourde, c'est toujours assez fin, et en plus, bah, enfin, du coup, c'est toujours... c'est en plus les gens qui se rendent compte qu'il faut pas, mais pour des... Enfin, qu'il faut être ni raciste ni sexiste, mais pour des bonnes raisons, quoi. Donc il n'y a pas un truc de c'est comme ça et c'est tout, et c'est bien aussi que ça soit montré comme ça. Alors du coup, c'est censé... Enfin, c'est autobiographique de ces trois femmes, et pour autant, le film, il dure 2 heures, et ça a vraiment... je me suis pas ennuyé une seule fois. Toute l'histoire, elle s'enchaîne, alors qu'on pourrait penser qu'il y a des temps morts, parce que autobiographie, donc des fois, il peut y avoir des choses un peu moins intéressantes, mais là, c'est pas le cas.
C'est autobiographique parce que c'est adapté de leur biographie personnelle, ou c'est adapté d'un livre, ou...
C'est adapté de leur vie.
Ouais, ça a pas... Y a pas eu un truc à écrire.
Je crois pas. C'est possible.
Genre,
ils
ont été les voir en leur disant...
Si, pardon, c'est un livre.
C'est un livre.
Je vais vérifier
en
direct.
Mais oui, en plus, je l'ai vu à la fin.
Un livre écrit par Margot Lee Shetterly.
D'accord.
Voilà. Et puis sinon, la réalisation, elle était correcte. Il y avait des images d'archives un petit peu, mais ça fait pas des transitions trop sèches. Genre, ça s'insère très bien dedans. Et du coup, ça parle aussi des débuts de l'informatique, notamment pour les calculs, et du langage Fortran. C'était rigolo. Ça m'a amusé.
J'ai jamais entendu parler de ce langage.
C'est un langage maintenant qui est considéré comme vieux, et du coup, dans le film, ils disent « Oh là là, c'est révolutionnaire, c'est Fortran ». C'était marrant, parce que c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 50 ans.
Eh oui. Et j'imagine que les trois femmes, elles tâtent en informatique.
Alors du coup, dans les trois femmes, en fait, il y a une mathicienne, il y a une ingénieure et une qui est superviseuse, enfin, qui a pris une place de superviseuse, mais qui n'est pas reconnue parce que les personnes d'origine afro-américaine ne pouvaient pas l'être superviseuse à l'époque. Donc c'est aussi un enjeu du film qu'elle réussisse à avoir cette promotion. Et du coup, il y en a, c'est cette troisième qui se tâte en informatique.
Ok.
Ouais. Et les autres ont d'autres jobs, genre bah, celle qui est mathématicienne, son rôle c'est de faire des maths, et celle qui est ingénieure,
elle est ingénieure.
Elle est un génie.
Oh, bah, par contre, oui, c'est clairement présenté comme trois génies en fait, qui ont fait avancer le.
Ça me donne envie de regarder.
Société. Oui, je pense que vous aimeriez bien.
Bon, oui, certainement. On a terminé les films, on va passer au sujet du mois en écoutant la bande-annonce.
Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver.
J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
Nous avons découvert une très grosse comète.
Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
Qu'on patiente et qu'on avise.
On patiente.
Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise.
C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent.
On fait quoi? Il faut qu'on sorte l'information.
On l'a fait fuiter.
Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace.
Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible?
Il y a 100% de chance qu'on crève tous! Je suis désolée.
Kate! Oh. Kate!
Ok.
L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr.
C'est moins sûr.
On va diffuser la nouvelle d'une façon ou d'une autre.
Elle est bien réelle et à l'approche.
FBI!
Vous êtes sérieux? Ça aurait été plus simple de m'appeler.
Dans cette comète, il y en a pour 30 000 milliards de dollars de matériaux.
Si on doit tous mourir, on en fera quoi de tous ces dollars?
Oh non, imagine, on devient riche, c'est tellement horrible!
C'est parti!
Vous avez découvert une comète? J'ai un tatouage d'étoiles filantes sur l'épaule.
Oh, ça, c'est formidable. Ça pourrait vraiment tourner au désastre.
C'est déjà un désastre.
T'es la fille de la télé qui a dit qu'on allait tous crever?
Non.
Mais tu mourras pas vivant!
La voilà! Une comète géante se dirige droit vers la Terre! Vous la voyez?
Je peux pas! Ma tête est dans un sac!
C'est moi qui ai dit au FBI de mettre un sac sur votre tête. Ils font jamais ça, c'est un truc de la CIA, mais j'ai demandé.
Ouais, j'avais une intuition.
Une bonne, vu que j'ai eu l'idée parce que c'est marrant et vachement cool.
Nous avons écouté la bande-annonce de Don't Look Up, le méga gros film qui est sorti sur Netflix le 24 décembre 2021. C'est un film américain qui dure 2h23, réalisé par Adam McKay avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, et j'ai pas mis tout le monde. J'ai mis les noms des gens qu'on aime bien.
On les
aime. J'ai pas du tout fait gaffe que c'était Meryl Streep. J'avais
mais
pas
si, c'est Meryl Streep.
C'est vrai?
Bah, j'avais pas fait gaffe.
T'as cru que c'était Glenn Close?
Qui est cette vieille dame?
Elle est horrible.
Il a pas la ref.
Glenn Close? Meryl Streep? Non, je sais pas.
Va googler les deux. Tu mets les noms des deux et tu vas comprendre. Pendant que je lis le résumé, alors. Kate DiBiaschi, une étudiante diplômée en astronomie, et son professeur, le docteur Randall Mindy, font une découverte stupéfiante d'une comète en orbite dans le système solaire. Le problème, elle est sur une trajectoire de collision directe avec la Terre. L'autre problème, personne ne semble s'en soucier. Que faudra-t-il faire pour que le monde lève les yeux au ciel?
Bah, il faut que la comète arrive. Et alors, la comète arrive.
Très près.
Glenn Close et Meryl Streep,
elles se ressemblent un peu.
Elles se ressemblent beaucoup.
Ouais.
qu'avez-vous à dire sur ce film? On peut commencer par la réalisation et visuellement, à quoi commencer?
Volontiers. Moi, j'ai trouvé que c'était très classique et très convenu, la réalisation. Qu'il y avait des scènes dans l'espace, je comprenais pas ce qu'elle foutait là. à part pour rallonger le film. Les moments où tu vois la petite comète qui se balade dans l'espace, mais...
Bah si, c'est pour montrer la menace qui arrive.
Mais il n'y a pas de musique menaçante.
Mais c'est... Enfin, moi, je trouve
plus,
ça bien.
En plus,
ça
se balade doucement. Moi, j'ai l'impression de voir un petit chien en balade. Genre,
c'est normal, ça avance doucement.
C'est peut-être parce qu'il y a 6 mois pour montrer ça... que c'est pas non plus une catastrophe imminente et qu'il y a largement le temps de faire des trucs.
C'est vrai.
Il y avait le temps, ouais.
Ok. Et à la fin, la scène qui est presque en trop... Elle est pas post-générique, je crois. La scène quand ils arrivent
Sur
notre planète.
Elle est générique.
Ouais. Et pour le coup, la réelle, c'était n'importe quoi, les couleurs.
C'est...
Bon, en même temps, 7h03, ils n'allaient pas se faire chier.
Oui, c'est ça.
On dirait une blague, on dirait même pas...
Bah, moi, c'est
une blague, mais elle raconte plein de trucs, quand même.
Ah,
oui, je suis d'accord. Que c'est une illusion de se dire qu'on peut juste partir et que tout ira mieux.
Mais il y a ça aussi. Ouais, mais elle raconte plus de choses que ça.
Qu'il y a des extraterrestres avec des fleurs. Avec des fakes.
C'est que des blancs qui sortent.
Déjà, il n'y a que des vieilles personnes blanches.
Il y a un black. On voit son cul quand il sort du vaisseau.
On n'a pas fait attention.
Et puis, ils font comme Adam et Ève, ils se promènent à poil. Ils n'auraient pas pu mettre une combi de survie. Enfin, personne ne descend à poil d'un vaisseau.
Désolé, les gars.
On met une combi. L'air est peut-être pas potable.
Mais si, il le dit. Il y a 9% de plus.
Oui, non, mais enfin, on sait jamais. On sait jamais, quoi.
Même le gag, en fait, enfin moi en tout cas j'aime un peu ce sujet là de l'espace et tout ça, mais le gag il raconte qu'en fait les humains sont adaptés que sur Terre et que on peut avoir le rêve ou la prétention de dire qu'on va aller coloniser d'autres planètes, on peut pas le faire.
Pas comme ça.
Pas comme ça, encore moins. Mais
vraiment, toi, Mathilde, celle-là.
Qu'en fait, surtout les humains descendent d'une, enfin, comment dire, de milliers d'années d'évolution et on est adapté que à notre écosystème et à notre environnement et que pour plein de raisons. Enfin, je pense même que déjà, combien ils disent, il y a 9% d'oxygène en plus. J'en sais rien là, mais je pense que même 9% d'oxygène, on est un peu.
Il risque d'être un peu dizzy, qui risque d'avoir la tête.
Ouais, voilà, mais bon.
Ah, c'est pour ça qu'elle va saluer les bestioles.
Mais c'est possible hein, en vrai, parce que je crois que plus d'oxygène, ça fait que tu te sens très bien. Tu sais, c'est la scène dans Fight Club où il dit on leur met un peu plus d'oxygène, comme ça, ils sont défoncés si jamais ils meurent. Voilà.
Et pour revenir à la réelle,
ils sont tous défoncés en se faisant bouffer par les.
Bah, remarque, ça explique pourquoi ils sont tous tranquilles alors que l'hôtel vient de crever, hein, parce que franchement, il se passe rien à ce moment-là.
N'approchez-les pas.
Oui, ne les caressez pas. Ok.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bonnes idées. Je retiens par exemple au tout début du film, ça m'a interpellé quand Kate et Mindy découvrent un peu. Enfin, commence à faire les calculs et se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. La focale, ça fait flou, pas flou, tu vois. Vous avez pas remarqué?
J'ai pas fait gaffe.
Il y a vraiment la focale qui change et, enfin, je trouve que c'est des jolis effets de mise en scène. En l'occurrence, moi, j'ai compris que c'était un peu pour montrer leur état d'esprit qui était complètement embrumé et un peu dans le flou, dans la panique. Donc, tu vois, même la caméra dans la panique arrive plus à bien se régler parce que c'est le stress. Enfin, je trouve que c'est des petits effets et à deux, trois moments. Et il y a un autre moment à la fin. J'ai jamais su si c'était Netflix qui buguait ou un choix de mise en scène. T'as des frises aussi.
C'est exprès, je pense.
Donc c'est un effet de mise en scène. Ouais. Vraiment, peut-être que c'est Netflix qui a un problème d'encodage. Je sais pas si ça se peut.
Franchement, je pense pas.
Mais si c'est un effet de mise en scène, moi aussi, j'ai vu, ça y est, même le montage est pété. Enfin, la fin de l'humanité approche. Donc du coup,
je pense que
tout est en train de trembler. Donc même le film bug ou. Je trouve que c'était très basique, mais il y a quelques petites bonnes idées qui sont assez originales, par-ci, par-là.
Saupoudrées.
Et à l'histoire, le scénario, là, il y a beaucoup de choses à dire.
Oui.
Ben voilà. Vous voulez que je commence ?
Vas-y.
Moi, j'ai dit que le film n'a de comédie que le genre.
Oh.
Certes, on rigole, mais on rigole surtout en se noyant dans nos larmes.
Oh, c'est un peu ça.
Tant la satire, elle est réaliste.
Ouais.
C'est.
Alors moi, j'ai pas trouvé que c'était très triste. J'ai trouvé que c'était énervant à regarder.
Ouais, c'est ça.
Mais
j'ai pas dit que c'était triste.
C'est vrai, mais tu dis qu'on se noie dans le.
Bah parce que moi, je pleure tellement c'est réaliste.
Mais tu pleures de rage.
Ouais, c'est ça. Je pleure un peu de rage, quoi. Sauf que je peux pas rage quitte. C'est ça le problème.
Si. Enfin, tu peux le filmer. Mais...
Oui, le film. Mais.
Oui.
Mais alors le problème c'est que c'est hyper américano-centré.
Mais alors, je pense que ça, c'est fait exprès, en fait.
Oui,
hein.
C'est fait exprès, c'est pour montrer à quel point ils sont comme ça. Hein.
Ah, c'est, oui, c'est possible. Ils oui, c'est vrai. Ouais, qu'il n'y a aucune coalition mondiale.
Non, ils prennent les décisions, eux, parce que c'est eux d'abord. Ouais, c'est eux, le monde.
Ah, mais... c'est pas bête.
Mais parce que c'était mis comme comédie.
Je crois que c'est une... Bon, la bande-annonce, elle met toutes les blagues. Hein.
Mais c'est vrai. Mais en fait, du coup, le problème, c'est que ce qu'ils appellent blague, globalement, c'est un espèce de truc second degré pour dénoncer un truc pas ouf, quoi. Mais il n'y a pas de...
Bah, j'espère que les gens vont voir ça comme ça et pas juste voir des blagues, genre « Ah, c'est drôle !» Parce que c'est pas... Oui. C'est pas drôle.
C'est une comédie dramatique, oui.
Ouais, c'est ça, comédie dramatique, ouais.
Bah, c'est un drame, hein, pour moi. Enfin, c'est pas Mélancolia, mais quand même, c'est...
Ah, on est loin de Mélancolia, mais les thématiques sont les mêmes, hein. Enfin... Oui. La seule différence, c'est que Mélancolia...
Attends, t'es en train de me spoiler des trucs, Jimmy.
C'est pas... On est plus dans le côté déprimant, quoi.
Mélancolie.
Ouais, Mélancolie, ouais.
Mais même si c'est, du coup, américano-centré, de manière volontaire, et c'est bien, bah, le discours, en fait, il est complètement transposable à, j'imagine, à peu près tous les États du monde. Enfin, et on peut parler d'une autre... où il y a le déni des responsables politiques face au dérèglement climatique, le scepticisme face à des faits scientifiques, genre on n'arrête pas d'entendre des gens qui disent « je ne crois que ce que je vois
». Il va avoir du mal à voir beaucoup de choses alors.
Ah bah oui. Ou la récupération capitaliste d'une catastrophe naturelle, on n'arrête pas d'entendre pareil des grandes entreprises qui disent « ah, on va tirer profit du réchauffement climatique » ou alors la croissance verte, enfin des conneries comme ça, ou l'aveuglement des médias aussi qui jouent pas leur jeu d'information. Ouais. Enfin, tout est super évident, et en fait, c'est très accessible du coup, et ça j'ai bien aimé aussi...
Bah pour le coup, ouais, mais du coup, ça manque presque un peu de... Enfin, tu sais, c'est...
Oui,
enfin,
il y aurait
des médias, en vrai, qui en parleraient. Là, c'est un peu facile de dire que...
Mais je pense que le film, c'est ça le côté humoristique, c'est que tout est trop gros. Dans la réalité, peut-être que cette décision de rien faire serait là, mais tu vois, la première scène où ils vont voir la présidente, elle a aucun sens.
Mais par contre, tu vois, le dialogue qui dit il y a une probabilité... de 99% et qu'on dit « Oh, bon, on va mettre 77, 70
ouais. ».
On va mettre 70 parce que comme ça, c'est un peu... voilà. Mais je suis sûr que cette discussion existe vraiment.
Oui, mais là, ils insinuent qu'en gros, tout le monde aux États-Unis est comme ça. Alors que t'as bien des médias qui... Enfin, t'as des médias un peu à côté, tu vois, pas du tout en mode récupérer de la thune, mais genre des gens qui veulent faire sortir la vérité. Tu le vois bien avec les lanceurs d'alerte, ou ce genre de choses. Il y a forcément des gens dans le monde qui se seraient mobilisés pour faire bouger les choses.
Mais c'est là qu'il y a le côté comédie, justement. Parce qu'on va s'attarder que sur les choses grotesques. Mais je trouve que ça permet quand même de recevoir tous les éléments, un peu. Parce que dans un film un peu pareil, mais pas vraiment, mais qui est dans une approche très réaliste, c'est Contagion, dont on a beaucoup parlé au début du Covid. Où là-dessus, par contre, ouais, à un moment, tu vois très bien que t'as des médias de mémoire qui jouent pas le jeu. Mais t'as aussi des podcasteurs un peu complotistes qui commencent à délirer. Enfin, t'as tous les spectres des médias d'information qui sont mis en avant. Mais c'est parce que t'es dans une approche vachement, complètement réaliste. Voilà. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire.
Moi, je voulais rajouter que le film aussi montre à quel point les femmes sont pas prises au sérieux. Parce que je trouve qu'au moment où Kate, elle intervient dans l'émission, et genre, elle s'énerve parce que pour elle, c'est... Enfin, elle est en train de se rendre compte que le monde va disparaître et que s'ils font rien... Donc, elle fait une crise de nerfs un peu en direct pour expliquer ce qui se passe. Et tout le monde est là en mode, c'est une hystérique, tout ça. Et plus loin dans le film, il y a DiCaprio qui fait exactement la même scène et ça se passe pas du tout de la même façon.
Il s'est passé...
Sauf qu'il est à quelques semaines de...
Mais je suis sûre que il l'aurait fait au début, et eh ben ça serait pas passé quand même.
Ça, on sait pas, mais en tout cas, il s'est passé exactement la même scène chez Pascal Pro, où il y a une femme, une dame, une scientifique, enfin, je sais plus son rôle, son métier, mais quelqu'un qui avait les compétences de parler du réchauffement climatique et qui commence à perdre un peu patience parce qu'elle voit qu'elle est un peu dans un dîner de cons. Et t'as Pascal Proulx.
C'est pas elle qui a invité.
Ouais, enfin, c'est elle la con de l'histoire. Ouais. Et en fait, tout le monde se commence à dire, vous êtes hystérique, vous allez vous partir du plateau si vous pouvez pas garder votre calme. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose. Sauf que c'était dans la vraie vie.
Mais voilà, tu vois, et je trouve ça ouf.
Oui, mais...
Moi, je trouve qu'elle se fait vraiment passer. En plus, c'est elle qui découvre la comète. Et on, vraiment, on la traite comme de la merde parce qu'elle est juste doctorante, parce que c'est juste une femme pendant tout le film.
Bah, rien que quand
elle... Elle n'est pas du tout prise au sérieux, alors que l'autre, c'est un mec et il a son doctorat, donc forcément...
Mais il
n'est
pas non plus pris au sérieux. Hein.
Enfin... Si, si. Bah, il joue avec le fait que tout le monde...
Justement, il n'était pas pris au sérieux. C'est tant qu'ils n'avaient pas l'heure scientifique des grandes universités qui n'avaient pas confirmé,
oui,
ils
mais c'est
ont
pas
juste
vrai
dit
parce...
de rentrer chez
mais
lui.
Mais c'est pas vrai parce qu'après... Après, il prend de direct, ils le mettent en avant.
Et en fait, ils
le...
veulent pas des gens qui prennent au sérieux. Regarde, ils font la même chose avec la soi-disant chef de la NASA du début, la personne noire, Jeannette quelque chose.
Oui, oui, je vois, celle qui était juste
anesthésiste. Dès qu'ils ont besoin que quelqu'un saute, ça dégage. Et en fait, je pense que du coup, lui, ils le mettent là parce que dès qu'ils ont besoin que quelqu'un saute, c'est lui qui va dégager.
Ah, mais au tout début, à leur premier rendez-vous chez la présidente. Leonardo DiCaprio arrête pas de dire c'est Kate qui a découvert et on s'en fout de son histoire, on veut que ça soit lui qui raconte ce qui se passe.
Oui, bah par contre oui, il y a un vrai truc sur elle est pas habillée comme il faut pour ce genre de truc et tout.
En plus il y a un peu un délit de faciès parce que elle a un look
Bah elle le dit clairement, enfin la soi-disant présidente le dit.
Ouais.
La soi-disant présidente.
Non, mais parce qu'on dirait Trump en femme.
Ouais,
mais ça,
c'est
bien
ça,
Trump
c'est
en
ça,
femme.
C'est ça.
Ouais.
Et puis, enfin, oui.
Son
fils, il est aussi con. Enfin, même quand son fils danse au meeting, c'est clairement quand Trump dansait dans ses meetings. Il danse pareil, il fait les mêmes trucs.
Et je crois que le parti qui m'a le plus énervé, c'est genre, ils sont tous au meeting, don't look up, donc ne regardez pas vers le haut. Et au moment, il y en a un qui lève la tête et qui voit et fait, mais c'est quoi ça? C'est la comète! Oh mon dieu, on nous a tous menti! Mec! Ça faisait plusieurs jours qu'elle était là.
Ouais, et puis là, il y a le...
Oui, mais
t'avais juste
pas aussi visible avant.
Ouais, non, mais...
La taille d'une étoile.
Ouais, et puis là, en fait, d'un coup, c'est...
Vous nous avez menti.
C'est ça,
toi qui es con, tu sais, c'est
voilà.
Vous. C'est votre faute.
Ah, c'est c'est l'incapacité de se dire, ah ben, j'ai peut-être merdé, d'accepter son propre échec ou de...
Après, c'est la présidente élue, normalement.
Elle n'est pas censée mentir.
Ils sont cette fière.
Elle est arrivée en disant qu'elle allait arrêter de mentir et d'en finir avec tous ces politiques mensongers. Non, mais voilà.
Mais c'est vrai, c'est un film énervant.
Et quand tu dis « don't look up », j'ai été... sur Twitter, j'ai déjà vu plein de hashtags « don't look up » de personnes de politiques ou de scientifiques ou de journalistes qui voulaient... interpeller les responsables politiques principalement avec ce hashtag-là. Donc je pense que en 2022, le nouveau hashtag sera Don't Look Up. Ça va remplacer hashtag Woke.
Et pourquoi ça peut pas être genre regarder plutôt Mais tu vois, le problème c'est que c'est le Don't Look Up, donc ne regardez pas. Ça serait mieux d'avoir le hashtag.
Mais il y a les deux en fait. Il y a les deux qui existent.
Genre regardez.
Les deux, ça y est, les deux existent.
Ouais, just look up.
Mais en gros, c'est quand ces personnes-là, quand elles interpellaient les responsables politiques et enfin les gens du gouvernement disaient vous êtes dans le déni, hashtag don't look up et voilà, c'était ça, en gros.
Marrant.
Ça m'a fait rire de voir que une semaine après, c'était déjà
une sorte
de phénomène. Clairement, je sais pas si le film voulait faire ça, mais en tout cas, il arrive pile au bon moment.
Beaucoup de réseaux sociaux et tout, je pense que.
Ouais. Vous avez plus rien à dire ?
Si.
Bah alors.
Je savais pas si on continue. Moi, j'ai aussi trouvé que la construction du personnage de Leonardo DiCaprio, du coup, elle est quand même un peu. J'aime bien qu'il y ait une évolution dans son perso, alors que.
Tu parles du fait qu'il se laisse avoir par le mal avant de retourner vers le bien.
Oui. Voilà.
C'est ça. Non, mais bon, moi, je le vois comme ça.
Après, il y a un côté, il se laisse avoir par le mal, et il y a un côté, il se dit, ah, je vais essayer de bien faire avec les moyens qu'on me donne.
C'est un peu, je mets plein de trigger warning. C'est un peu le discours de Nicolas Hulot quand il est arrivé au gouvernement Macron.
Il met que des métaphores réelles.
Non, mais parce que ce film est rempli de ça.
C'est vrai.
Il est arrivé en disant, en étant militant, j'arrive pas à changer les choses, alors je vais essayer de le changer en étant au cœur du système. Il a échoué. Exactement comme Leonardo DiCaprio, mais voilà.
Mais d'ailleurs, c'est le même principe, à la fin, il part et tout. C'est Nicolas Hulot. Ouais. Et puis, du coup, j'avais mis aussi que, du coup, je trouve que le perso de Jennifer Lawrence, il ressemble à celui de Kirsten Dunst dans Mélancolia, dont on parlait tout à l'heure.
Mais je me rappelle plus, c'était la mariée ?
C'est la blonde dépressive.
La mariée ?
Non, c'est l'autre.
C'est l'autre. Ouais, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu au cinéma, en fait. C'est tout.
Mais elle, elle représente vachement bien la jeunesse désabusée. Tu sais qu'on va un peu dans le mur et... Bon,
ah oui, et du coup, il y a la seule blague qui m'a fait rire, c'est quand il rentre dans la baraque de la meuf de Leonardo DiCaprio et qu'il y a Timothée Chalamet qui lui dit eh, c'est mon pseudo sur Twitch, c'est Nanina, ça se trouve tu m'as vu. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens.
C'est vrai que c'est
drôle. Elle a 50 ans, cette dame.
Mais c'est pour ça que l'autre, elle lui dit, non, je pense pas.
Ouais. C'est le seul moment où t'as rigolé.
C'est le seul moment où j'ai ri. Tous les autres blagues, ça m'a énervé.
C'est vrai que j'ai plus...
Nous, on n'a pas trop ri. Moi, c'était plus, on était en mode, oh là là, c'est pas possible. Ouais.
Oui, mais voilà,
cons.
Mais en fait, c'est énervant, quoi. C'est pas marrant, au final. Enfin,
c'est qu'est-ce qu'ils sont cons,
J'avais mis que je trouvais que le côté humour, il était étouffé parce que, en fait, bah, le sujet est quand même méga sérieux. Donc, t'as beau essayer de mettre des blagues.
Vous avez pas parlé du scientifique qui fait les téléphones, là. Il pouvait penser à quelqu'un, non?
À qui? C'est Elon Musk, mais c'est une sorte de... C'est clairement Elon Musk.
Je sais pas.
T'as jamais entendu Elon Musk dire, bah, enfin, on va peupler notre planète?
Oui, si, mais je veux dire...
Ou qui veut clairement tirer profit en disant, avec les nouvelles technologies,
mais en fait, on dirait
le monde.
Lui, pour le coup, je trouve que son perso, il est un peu trop mal fait. On dirait un méchant de James Bond, genre, ah, je vais être méchant, quoi.
Parce que Elon Musk est un méchant de James Bond, peut-être.
Ouais. Moi, je trouve pas qu'il est méchant, il est complètement à l'ouest.
Lui, il est persuadé de faire le bien.
Ah oui, et par contre... Du coup, il y a quand même un truc qui a aucun sens. Cette histoire de la présidente, elle se fait tuer par un truc qui s'appelle un bretoc ou un truc comme ça. Et il lui dit ça super longtemps avant qu'ils aillent sur l'autre planète. C'est 23 000 ans plus tard.
C'est une préparation paiement grotesque.
Mais
un
non,
peu...
c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils récoltent toutes les données des gens et ils te disent qu'avec les données sur tout ce qu'ils font médical et tout ça, ils arrivent à prédire.
Non, mais là, il
n'y
a pas assez.
Non, mais c'est pour dire. Mais c'est pas possible, mais c'est potentiellement probable. Peut-être pas. Exactement comment est-ce qu'elle va mourir et tout ça. Mais ça peut être au moins une date potentiellement possible.
Si, en gros, si.
Mais non, il va pas lui dire elle va mourir avec un truc, c'est pas possible, ça s'est pas passé, donc je comprends bien que ça n'existe pas, donc.
Non, en fait,
non, mais ce qui est pas possible, c'est qu'il prévoit ça, je trouve.
En fait, ce qui est impossible, c'est que.
Oui, mais c'est une blague.
En fait, ce qui est vraiment impossible, c'est que. Les algorithmes peuvent pas prévoir qu'une race extraterrestre.
Ah non.
Ça, c'est impossible.
Mais c'est une
par
blague.
Contre, c'est une blague. Mais ce qui est satirique, c'est de dire, mais c'est très, très petit. C'est pas du tout le propos du film. C'est de dire que les algorithmes, à un moment, vont avoir tellement de données.
Que
et peut-être même
savoir
plus quand
si tu vas être malade ou genre
c'est
de
ça.
Choses.
Si on va même carrément dans la génétique, parce que ça peut exister aussi. Si on creuse un peu dans la génétique des gens, on peut connaître des maladies. Genre, tu vas avoir telle maladie dans 4 ans. Ça peut être bien, mais ça peut très bien aussi être comme si c'est mal récolté, ça peut être hyper dangereux.
Mais sauf qu'au final, tout ce que fait ce mec échoue. Donc, je pense que je sais pas quelle est l'idée du message, mais genre ces
que,
espèces de trucs d'explosifs.
Que les fabricants de téléphones vont pas sauver le monde.
Oui, c'est vrai. Mais genre même le truc de ah tu vas mourir tout seul, bah en fait non, tu vois. Enfin.
Bah oui, c'est vrai.
Il lui dit
planté.
Qu'il va mourir tout seul.
Il a dit qu'il connaissait quand DiCaprio allait mourir et que la seule chose qu'il savait et qu'il devait retenir, c'est que sa mort était nulle, mais que de toute façon, il allait mourir tout seul.
Et c'est pas du tout le cas.
Non, parce qu'il a, il a fait le bon choix. Sinon, il serait mort tout seul.
Ouais.
Ça, c'est la morale de Road pour le futur. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. C'est tout ?
Non.
Ah.
Bim.
Pourquoi ils abandonnent son fils? C'est un connard. Il aurait dû être un connard jusqu'au bout. Je trouve ça bizarre de.
Mais parce qu'il panique et il croit vraiment qu'elle va revenir.
Non, mais d'accord. Mais la mère, pourquoi elle lâche son fils?
Mais parce qu'elle s'en rappelle quoi? Elle est tellement narcissique qu'elle s'en rappelle pas dans l'avion. Elle est à qui ça?
Moi, je captais pas le message. Enfin, je veux dire, ça me paraissait absurde. Genre, elle le voit tous les jours. C'est son chef de cabinet.
Ouais, mais elle est tellement à l'ouest.
C'est pour montrer que quand c'est la fin du monde, c'est l'égoïsme à tout prix. En fait, j'ai l'impression que ouais, il y a des trucs un peu bizarres, mais c'est comme si tous les potards de la caricature étaient au max, quoi.
Ouais. Bah, dans le même style, le gars qui pilote la fusée et qui après fait demi-tour là.
Mais oui.
Mais ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tout son discours raciste.
C'est horrible.
Ça m'a énervé.
Bah, ça, c'était pour montrer que les héros de Trump étaient des vieux cons qu'il fallait arrêter.
Le truc de les potards sont à fond, quoi.
Et les phrases qu'ils disent tout le temps. Non, mais il est pas de la même génération. Non, mais il est. Ça excuse pas tout.
Ils le disent aussi, mais je m'attendais presque à ce qu'ils lui disent. Ok, boomer, quoi. Parce que
Peut-être que le. on n'est pas de la même génération, is le nouveau hockey boomer.
Ouais.
C'est bon cette fois ?
Oui.
Allez, on peut passer aux recommandations et aux nouveautés du mois prochain. Comme d'habitude, Mathilde, on te laisse la parole pour cette partie.
Reco janvier nouveauté, ça continue.
J'aime bien quand elle fait ça, qu'il n'y a plus de verbe.
Ça continue, le livre de Boba Fett sur Disney+.
De Boba Fett.
Il fait du rap et il en dit.
Non, c'est le petit ours. Booba, Booba.
Je ne l'ai pas, moi.
Mon petit chanteur. Ourson.
C'est pas le Booba, le petit ourson.
Non.
Oh.
Désolé. Je suis plus vieux que vous, moi.
Pas du tout.
Si, on va.
Bah non.
Moi, je suis de mai, c'est moi le plus vieux.
Moi, je suis de septembre.
Il est plus vieux que nous.
Ah oui, c'est vrai. Bon, sur Disney+, encore 6 épisodes. Alors, on n'a pas regardé le premier encore.
Non.
Non, c'est sorti hier ?
Moi non plus, je ne l'ai pas regardé.
Il y a deux jours.
C'est sorti le 29.
Il y a deux jours. Ouais. Bon, bah voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses en janvier parce que bah, j'ai cherché un petit peu, mais après, je n'ai pas trop eu le temps. Et personne ne l'a fait,
je crois. Ah oui, ok. Je crois que tu disais qu'il n'y avait pas grand-chose qui était sorti, que tu avais cherché pourquoi il n'y avait pas grand-chose qui était sorti. Mais en fait, non, c'est notre liste
non,
qui
non,
est assez
courte.
Non, non,
je trouve que la liste est courte, mais bon. Alors, 1er janvier, donc demain. Planqueur saison 3 sur Netflix.
Oui.
Alors ça devait être une saison ou deux et ça continue.
Tu connais pas Planqueur ?
Mais c'est les espèces de trucs de AB Production, non ?
Mais non, c'est sur Netflix,
on a dit. C'est vrai que c'est un nom de AB Production. Non, en vrai, c'est très bizarre. Moi, j'aime bien. C'est tout.
C'est une série française un peu humoristique, sympatoche.
C'est une romance.
Qui parle de couple.
Une romance parisienne. Enfin, vraiment.
On est quand même sur AB Production. Mais...
Oui, mais enfin, c'est mignon. Non, c'est pas AB Production, mais c'est mignon. Moi, j'aime bien. C'est très bizarre. Mais j'adore. J'aime bien.
Okay.
Le 8 janvier, il y aura la saison 2 d'Euphoria sur HBO Max et je pense que c'est OCS en France, mais j'ai pas vérifié encore. Donc ça va être trop cool. Alors déjà, avant de regarder la saison 2, il faudra peut-être que je regarde l'épisode de Noël de il y a un ou deux ans, je ne sais plus, d'Euphoria. Mais on m'a dit qu'il était triste et déprimant, alors j'ai trop peur d'être triste et déprimé.
Mais tu l'as pas vu ?
Non, pas encore, faut que je le regarde avant de prendre la saison 2.
Ah bon ?
Ouais. Le 14 janvier, Afterlife, saison 3 sur Netflix, on vous avait parlé de la saison 1, il y a 1, 2 ou 3 mois, je ne sais plus, que j'avais vu, j'ai pas encore fini la 2, donc bah, la 3 va sortir, voilà, voilà. Mm-hmm. Le 21 janvier, As We See Hit, saison 1 sur Prime Video, alors ça c'est une nouvelle série, c'est une série qui parle d'une colocation de jeunes autistes, donc voilà. Ça.
C'est en mode sitcom ?
Je sais pas du tout, faut que peut-être. J'ai pas vu de plus d'infos que ça.
D'accord.
Ça va être peut-être le nouveau Atypical.
Ou
Atypical,
alors, ils vont devenir médecins et c'est le nouveau The Good Doctor.
Bah, peut-être.
Un groupe de jeunes médecins.
Le 25 janvier, Snowpiercers.
Oui.
Saison
3.
3. Épisode 1. Un épisode par semaine sur Netflix pendant je sais pas combien de temps. Du coup, ça va être long,
c'est
je pense.
Une vingtaine, je crois, non ?
Ouais. Non, un peu moins.
Une
10.
Douzaine ?
10, dizaine. 12, je sais
okay. 18.
J'avais bien aimé la saison 2.
Et le
j'ai jamais vu un seul épisode.
28 janvier, Getting Curious with Jonathan Van Ness sur Netflix. Alors, c'est une série, je pense,
Mais c'est de la télé-réalité, non ?
Ben, je pense pas que c'est de la télé-réalité, je pense que c'est plus un...
Ah, est-ce que ça serait un peu dans le même style que le truc qui était avec le professeur du chaos de Jurassic Park ?
Bah,
qui se balade avec des thèmes et il fait des trucs.
Ah oui.
Bah peut-être, mais en gros c'est Jonathan Van Ness, c'est un des Queer Eyes qui est spécialisé, qui est coiffeur.
Docu-réalité, c'est comme ça qu'on dit, je crois.
Ouais. Donc peut-être que ça sera ça. Il est coiffeur et donc peut-être qu'on le suivra sur plusieurs thématiques et tout ça. Mais en tout cas, j'adore ce monsieur.
Ou alors ça va parler que de coiffure.
Non, moi, je pense pas. J'adore ce monsieur. Et d'ailleurs, pour information, Queer Eyes est sorti aujourd'hui. Donc, vous pouvez regarder la saison 6. Nous, on a déjà commencé le premier épisode et les gars, ça envoie du lourd.
On vous en parlera le mois prochain.
Ouais.
Soyez-en sûrs.
D'autres recos ou on arrête là ?
Bah non, ça paraît bien. Enfin, ouais. On en invente.
Peut-être que tu regardes ce qui sort un petit peu pour voir.
T'essaies de me faire passer un message.
Non, ça va.
Si, un peu... Alors, le sujet du mois prochain, ça sera l'épisode, est-ce qu'on appelle ça un épisode ? Le show spécial des anciens
acteurs. Des retrouvailles des 20 ans d'Harry Potter.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Avec qui ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Tout le monde.
Tout le monde.
Et à part
Est-ce qu'il y a même Albus Dumbledore
possible.
À part ceux qui sont morts.
À part évidemment le pauvre.
Ah oui, un des deux ronds.
Severus
un des
Rogue, deux... le pauvre monsieur. J'ai oublié son nom.
Et puis un des deux roues aussi. Tu veux dire Rogue décédé,
non, mais ça c'est. Non, les
ah
deux
non, ça
sont
c'est
vivants.
Dans le film.
Oui, ça c'est dans le film.
Quand la réalité se confond avec les films, c'est que ça fonctionne bien.
Alan Rickman est décédé, ah oui. Donc ne sera pas là.
C'est vrai, c'est dommage parce que c'est un peu le perso le plus intéressant.
Oui, bah oui. Mais apparemment, ça pleure beaucoup quand ça parle de lui, bien sûr.
Ah oui, oui, j'imagine. Ouais,
ok.
Ça paraît bien.
On est
comme okay. Ça, je vais regarder la Harry Potter.
Ils arrivent sur Salto, non, les 8 films.
Et bah, si j'en garde un par jour.
Pff, ça prend 8 jours.
Ouais, ça te prend.
En plus, tu vas avoir un début de semaine sympa en voyant les 1 et 2, tu vois. Après, tu vas dire, ah, c'est un peu long. Et après, tu vas être dépressif.
Le 1. Est très long.
Non, le 1, il est horrible. Moi, j'en
le
ai marre.
Le 1, quand
de
on
regarder.
L'avait regardé, il y a 2-3 ans, il a fait un marathon.
Mais c'est un peu féerique et
tout. C'est tellement moche, le gros gobelin là, qui attaque dans
oui,
l'école.
Mais là, on ne peut pas juger les effets spéciaux. C'était ouf, les effets spéciaux.
Il y a un troll dans les toilettes des filles.
Il y a un troll
dans les cachots. Un troll dans les cachots. Je voulais seulement vous prévenir.
Plouf.
Ça, c'est quand il tombe.
Ah, c'est pardon,
tombe dans les toilettes, du coup.
Quoi?
Bah, la bataille, c'est dans les toilettes des filles.
Oui.
Bah
oui.
Hermione, bon, elle n'est pas au courant.
Vraiment bifurqué sur rien à voir.
C'est sur ces belles paroles que nous terminons ce premier épisode de l'année. On espère
mais non
qu'il vous aura
C'est le
plu.
Dernier épisode de l'année.
Oui, mais quand il sera sorti, ça sera le premier
non.
épisode de l'année.
Non, c'est toujours... non, il sort en dès janvier, mais c'est le dernier épisode
le
de l'année.
Le dernier épisode de l'année.
Moi, je suis moyen.
On espère
d'accord.
qu'il vous aura plu. Vivement de ville 2022, qu'on profite de tous ces nouveaux programmes dont on vous a parlé au début de l'émission.
Et raclette partie.
Et là, ça part sur une grosse racletasse.
Ah oui, pour maintenant.
N'hésitez pas à nous dire sur Insta quelle série ou quel film ou quel documentaire vous attendez le plus cette année. Peut-être que vous allez nous faire découvrir des trucs trop cool.
Ou quel mockumentaire.
Quel quoi?
C'est quand c'est des films en mode documentaire, mais qu'en fait c'est un film mockumentaire.
Peut-être que t'inventes un genre. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur nos différents réseaux et sur le blog plaid.fr et vous pouvez nous offrir plein d'étoiles sur Apple Podcast. On vous souhaite le meilleur, la meilleure année 2022 possible. À dans un mois. Merci Mathilde.
Merci.
Merci Damien.
Merci à toi et bonne année.
Et bonne année, salut!
Bye!
Bye!